Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Ça y est, c'est l'heure de votre libre antenne. L'heure de vous retrouver dans cette ambiance feutrée de début de nuit pour 2 heures de témoignages et de confidences. Nous sommes donc ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Rejoignez-nous dès maintenant si vous souhaitez prendre la parole ce soir. Appelez le 3921. Toute l'équipe de la libre antenne du week-end est là pour vous ce soir encore. Julien à la réalisation et Cindy et Nicolas au standard. Venez me parler de vous, de votre envie, de vos envies. D'ailleurs, savez-vous vraiment ce que vous voulez dans la vie ? Souvent, on sait plutôt ce qu'on ne veut pas, ou plus. Seulement, quand on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, c'est difficile d'avancer. C'est comme si au restaurant, vous preniez la carte et que vous donniez au serveur la liste de tout ce que vous n'allez pas prendre. Eh oui ! Ou comme si en voiture, vous programmiez votre GPS pour aller en Ile-de-France, quelque part. Quelle ville ? Quelle rue ? Quel numéro ? On ne sait pas. Ça vous paraît très saugrenu de fonctionner comme ça, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est souvent ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous demander quelque chose si nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment ? Comment pouvons-nous atteindre un objectif si nous n'en avons pas de clairement défini ? Être clair avec ce que l'on veut et se donner les moyens d'y arriver, voilà l'une des clés du bonheur dans tous les domaines de la vie. Alors venez me parler de vous, de votre envie, de vos objectifs ce soir. Partageons tout cela si vous le voulez bien et bien d'autres choses encore. 3921 donc pour le téléphone. Et puis pour réagir par SMS, c'est comme tous les soirs, 739-21, suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous démarrons cette libre antenne du vendredi soir avec l'appel d'Annie. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Et je suis particulièrement touchée de votre appel car vous occupez de la SPA, si j'ai bien compris.
Oui, et à Montpellier,
comme,
oui.
Comme vous le savez peut-être, je suis très très touchée par la cause animale et une grande amoureuse des animaux. Voilà.
Mais c'est une passion partagée, croyez-moi.
Ben, j'imagine bien.
Les animaux, ça vous apporte tellement de bien-être, tellement de choses, et ils sont tellement, je dirais, purs, et quand vous êtes avec eux, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée.
Et pas de jugement, jamais.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Alors, je crains d'entendre ce que vous allez avoir à nous dire, malheureusement.
Oui, ben là, on a ce qu'on appelle l'après-Covid. La Covid n'est pas encore terminée, mais nous, on a l'après-Covid. C'est-à-dire qu'on a eu énormément, dans toute la France d'ailleurs, des animaux qui ont été adoptés pendant cette période très particulière, hein, qui n'a jamais existé en nulle part dans le monde. Et les gens se sont précipités pour adopter des animaux ou en acheter dans les animaleries ou chez les éleveurs. Et on se retrouve, nous, maintenant, à Montpellier et ailleurs aussi, avec un nombre très très important d'animaux.
Non, c'est-à-dire qu'il les ramène maintenant que c'est fini ? Enfin, que c'est fini.
Ça.
Pardonnez-moi, mais j'avais cru comprendre que c'était l'inverse. Et qu'au début, les gens étaient tellement affolés qu'ils abandonnaient leurs chats et leurs chiens de peur qu'ils puissent les contaminer.
Non, alors ça a été, je dirais, une fake news. Hein.
Ah bon ?
Il y a eu très peu de cas comme ça.
D'accord.
Nous, on n'a pratiquement jamais eu ces cas. Et par contre, on n'en a eu qu'un dans toute l'année. Mais par contre, là, on a l'après-Covid. Et ça, c'est quelque chose de réel. Les chiffres sont affolants. Et donc, beaucoup de SPA, on a énormément d'animaux.
Ah, ça, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas pensé à ça de ce point de vue. Ça veut dire quoi ? Que les gens ont pris des chiens pour avoir un prétexte pour sortir ou parce qu'ils s'ennuyaient ? Ou des chats pour s'occuper aussi à la maison ?
Oui, tout à fait. C'était ça, les motivations. Et en plus, on a beaucoup d'échos des cabinets vétérinaires.
Ouais.
Les gens les ont gardés enfermés. Ils ne leur ont pas inculqué un minimum d'éducation.
Ah oui, donc c'est une catastrophe derrière.
Des animaux compliqués, voilà.
Ingérables, évidemment.
Voilà, c'est ça.
Et puis évidemment, quand on est en télétravail et que du jour au lendemain, on laisse l'animal seul parce qu'on reprend le boulot, c'est plus la même chanson.
Exactement.
Mais c'est de l'inconscience en même temps de prendre des animaux pour ces raisons-là, quoi. C'est de l'égoïsme et de l'inconscience.
Mais je pense que les gens étaient dans un mal-être très important et ils ont eu trop de choses qui sont arrivées. Ils ont pris ces animaux parce que c'est vrai que ça apporte tellement d'amour et tellement de bien-être. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas su les gérer. Et nous, on a malheureusement ce qu'on appelle des pots cassés, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec énormément d'animaux en souffrance dans les refuges, quoi.
Oh là là. C'est très... À quel moment vous avez noté qu'il commençait à revenir un nombre supérieur d'animaux à la normale ?
Au mois de septembre, parce que d'habitude, si vous voulez, en septembre, on recommence à souffler un peu, après donc les abandons habituels de l'été. Et là, on a senti que, si vous voulez, le souffle ne retombait pas.
Rien quand vous dites, pardon, mais rien quand vous dites abandon habituel, ça met un coup de poing dans le ventre, moi, quand j'entends ça.
Je sais. Oui, c'est affreux. Avant les vacances, on abandonne son animal, parce qu'on se retrouve, on n'a plus envie de l'assumer. Et ça, c'est une réalité en France depuis des années. Mais là, on a, je vous dis, l'après-Covid, hein. Enfin, c'est net. Hein. Depuis que les personnes sont reparties au boulot, sont plus en télétravail, on a senti les abandons. On a à peu près un abandon par jour. Hein. Ouais. Et là, on a senti qu'on avait deux, trois, des quatre abandons quand les gens nous téléphonaient pour pouvoir abandonner leur animal. Et quand on leur répondait, mais on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas vous le prendre, les gens se fâchaient en disant, mais qu'est-ce qu'on va en faire enfin,
alors j'allais vous demander, est-ce qu'ils ont au moins le courage d'assumer leurs actes ou est-ce qu'ils les accrochent devant le portail et ils foutent le camp?
Pour l'instant, nous n'avons eu que deux cas comme ça. Donc pour l'instant, non. Ils ont quand même le courage de téléphoner, de prendre un rendez-vous. Et pour beaucoup, ils arrivent à patienter un peu. Mais ils sont très, quand même, pressés de les abandonner. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on règle le problème de suite. C'est-à-dire qu'on prenne l'animal et qu'ils veulent les voir.
Ils sont gentils. Il n'y a qu'à Faucon.
C'est ça. Mais des abandons en bord de route ou en bord de refuge, on n'en a pas eu autant que ça par rapport aux autres années.
Bon, ça veut dire que c'est déjà un peu moins pire, mais enfin bon.
C'est ça.
C'est pas grand-chose de moins pire. Mais dites-moi, ce soir, c'est le premier soir des vacances. Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui un regain nouveau d'abandon ?
Non. Ah. Non. Aujourd'hui, pas particulièrement. On a des rendez-vous d'abandon programmés, mais pas plus que la semaine dernière. Là, on craint aussi ça. Ces premières vacances, un peu de folie, où vous avez vu, tout est plein.
Là,
partout.
Et c'est ça où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, là, cette fois.
Oui, mais je pense que les hôteliers et les centres de vacances ont peut-être fait des efforts aussi de pouvoir prendre les animaux, parce qu'il y a quand même un souci aussi en France.
Ah, ça, c'est
que
sûr.
Beaucoup d'endroits ne prennent pas les animaux, et ça c'est plus acceptable. Alors, on ne peut pas condamner l'abandon et ne pas accepter les animaux en vacances.
Je sais qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui listent justement tous les endroits où on peut venir avec son animal.
Tout à fait. Et ça marche de plus en plus. Et les amis des animaux, en général, vont vers ces sites-là, et ce qui est très bien. Et les gens, quand on leur dit « Ah ben non, l'animal n'est pas accepté », c'est vrai que ça, c'est un drame.
Et puis,
quand même.
Je vais en profiter pour parler de deux sites que j'aime beaucoup. Il y a empruntemontoutou.com, je ne sais pas si vous connaissez ça.
Oui.
Parce
oui,
que ça permet aux gens de prêter leur chien pendant une demi-journée ou une journée à des gens qui sont dans leur périmètre géographique. Et par exemple, quelqu'un qui postule peut être un étudiant qui travaille beaucoup à domicile, et qui s'ennuie et qui peut dire à un voisin, moi, votre chien, je peux le prendre par exemple un jour sur deux, s'il est tout seul. Enfin, ce sont des échanges gratuits comme ça. Et ça, franchement, je trouve que le concept est vraiment bien.
Oui, c'est un concept nouveau, mais qui est intéressant et puis qui peut être très bien pour l'animal aussi. Il est plus seul et il a une compagnie.
Moi, je vous avoue que je l'ai testé parce que j'ai une petite voisine qui m'a répondu comme ça sur ce site. On ne se connaissait pas alors qu'elle habitait à 50 mètres. Et elle me disait, moi, je rentre le soir du boulot avant mon copain. J'ai envie de me promener, mais j'ai pas envie de me promener seule. Est-ce que je peux venir prendre votre chien pour me balader avec lui ? Et il était ravi. En plus, moi, ça m'a permis de la connaître. Et mon chien était absolument enchanté d'aller se balader avec elle tous les soirs. Il lui faisait une fête d'enfer quand elle arrivait. Et je trouve que le concept est vraiment agréable.
Tout à fait. L'animal, de toute façon, c'est un lien hein, entre les gens. Vous savez, pendant la Covid, nous, ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est que les gens se promenaient leur animal et se parlaient même à distance. Et voilà. Oui. Donc, ça, c'est bien aussi. Et ces sites-là qui viennent de prendre ce nouveau concept, je trouve que c'est très, très bien.
Et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des solutions. Et l'autre site, je ne vais pas le citer parce qu'il y en a plusieurs, mais ce sont ce qu'on appelle des home-sitters, des gens qui viennent chez vous et qui peuvent... pour les vacances, qui peuvent habiter chez vous et garder votre maison, votre appartement et s'occuper des animaux. Et ça fonctionne très bien. Et là, pour le coup, c'est un petit peu payant, mais on paye l'assurance principalement, c'est tout. Une adhésion, oui. C'est pas grand-chose. Donc, il y a des solutions.
Pour l'animal, c'est bien parce qu'il n'est pas dépaysé.
Pour les chats, c'est formidable, comme effectivement. Voilà, mais ça, surtout, ça veut dire qu'il y a plein d'autres solutions que l'abandon, évidemment.
Exactement. Évidemment. Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Comment ça se passe dans chez vous, là, à Montpellier, en ce moment? Vous en avez combien?
Ah, là, on a énormément d'animaux. On a plus de 400 animaux. Hein. C'est très, très lourd. Hein. Ah oui, 400. Ouais. Et on a des animaux, en plus, qui n'arrivent pas en très bon état, qui n'ont pas été très bien entretenus. Donc, il faut les soigner. On a besoin de bénévoles, on a besoin de dons, on a besoin de bras, on a besoin de beaucoup de choses. Quand on a énormément d'animaux comme ça, c'est vrai que pour les bénévoles qui viennent s'en occuper, c'est important qu'ils soient nombreux et aussi nous aider financièrement parce que tout ça, ça coûte bien entendu très très cher.
Est-ce que vous avez aussi besoin de matériel, de couverture, de panier, de jouets, de gamelles?
Oui, des couvertures, surtout des couvertures et puis des croquettes aussi, voilà, croquettes, pâtés pour chien, pâtés pour chat, voilà, tout ça.
Oui, vous avez besoin de tout en fait, oui.
Tout à fait, tout à fait.
400 avec l'hiver qui arrive en plus derrière, ça me...
Oui, et on a eu une aide donc de l'État, là, de France. On est en train de refaire un îlot où ils vont être au chaud cet été, et là, cet hiver, et nous, c'est déjà bien. Parce que bon, même si on est à Montpellier, croyez-moi, quand il fait froid, il fait froid.
Ben évidemment. Voilà. Mais comment est-ce que... J'ose même pas imaginer vos journées. Est-ce qu'elles s'arrêtent des fois, vos journées, ou elles sont H24?
Ah non, c'est H24.
Ouais. Vous êtes combien dans l'équipe?
Alors, on est 22 employés et on a donc un gardien pour la nuit. Et donc, il y a toujours quelqu'un sur le site toute la journée, 7 jours sur 7.
Plus les bénévoles?
Plus les bénévoles qui viennent donc tous les après-midi pour s'occuper des chats et promener les chiens.
Donc ça serait intéressant que vous puissiez expliquer peut-être un peu en détail tout ce que peuvent faire les bénévoles, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, moi j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas?
Alors il y a plein de choses, il y a s'occuper des animaux, et s'occuper des animaux à travers l'association, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui s'y connaît en communication, il peut très bien venir nous donner des idées pour effectivement communiquer sur nos besoins, les besoins des animaux, comment on peut faire que l'association, les gens connaissent mieux ce qu'on y fait. Et ouais. Donc pour les chats, c'est pareil, les chats ont énormément besoin de compagnie, donc les bénévoles viennent pour les brosser, les caresser, jouer avec eux. Et tout ça, si vous voulez, c'est un tout, c'est une vraie fourmilière. Si vous venez à 14h, il y a beaucoup de monde, les gens s'affairent à sortir les chiens, ou à les brosser, ou à venir nous aider dans les bureaux pour faire plein de choses, nettoyer, faire des couvertures, couper des couvertures, enfin voilà.
C'est intéressant parce qu'effectivement, je n'aurais pas pensé à l'aide technique dans les bureaux, sur l'ordinateur, des choses comme ça aussi. On n'y pense pas forcément.
Même pour répondre au téléphone, pour faire plein de choses, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Et c'est surtout de permettre de faire connaître donc tout ce qui se passe et tout le besoin qu'on a, tous les besoins qu'on a. Parce que là, je vous dis, on n'a jamais eu autant d'animaux au mois d'octobre. Et c'est vrai que là, c'est pour nous, c'est primordial. On ne vit qu'à travers les dons, les legs, et l'aide des gens. On n'est pas aidé, quoi. Donc c'est très important.
Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Par quel biais on peut vous joindre? Plus facilement.
Alors, on peut nous joindre donc, bien entendu par téléphone au 04 67 27 73 78 sur notre site internet, donc spa-montpellier.org, ça c'est le site donc officiel, où on peut voir tous nos animaux à l'adoption, chats, chiens. Oui. Et on peut aussi nous aider financièrement, et pour devenir bénévole, toutes les explications sont sur le site. Et bien sûr, on a un compte Facebook, donc c'est SPA Montpellier.
Alors justement, j'ai une page Facebook Sabine Marin, je vous invite à y mettre votre lien, et je ferai volontiers de la pub pour vous.
Tout à fait, tout ça, c'est des pierres qu'on met à l'édifice pour construire cet édifice et pour qu'ils tiennent longtemps dans la durée, pour continuer les soins, pour continuer à s'occuper de tous ces animaux malheureux. Et je ne vous ai pas parlé des maltraitants, parce que je vois que vous êtes très attentive.
Je vais avoir du mal,
attentive.
Oui, je vais avoir du
là,
mal.
Il y a un gros problème, parce qu'on en a de plus en plus.
Ça me fait mal physiquement, rien que de l'entendre parler, et en même temps, ça me met dans une colère. Je crois que c'est la seule chose qui pourrait me rendre violente. Peut-être face à quelqu'un qui se permet ça, quoi, vraiment.
Et malheureusement, on en a beaucoup.
Je souhaite rarement du mal à des gens, mais je souhaite vraiment beaucoup de mal à tous ceux qui se permettent ça avec les animaux.
Tout à fait. Ça bah, celui qui permet de faire mal aux animaux, c'est la même personne qui fera mal à des enfants.
Probablement.
Qui sont des êtres tellement, je dirais, faibles et qui sont tellement soumis à l'homme que, voilà, on profite de ça pour les mettre dans des conditions inacceptables, sans boire, sans manger, et dans des caves. Enfin, je vous passe des détails qui sont assez sordides. Et ça, c'est notre quotidien aussi. De voir ça, quoi, et de subir ça et de les voir arriver complètement traumatisés, faméliques, malades et sans soins, et ça, c'est très dur aussi.
Alors, j'aimerais votre avis sur quelque chose, parce que moi, je vous avoue que j'ai découvert un peu le fonctionnement de la SPA à travers une émission qui est passée sur la 8, je crois. Est-ce que ça vous dit quelque chose, animaux à adopter?
Oui, il y a des refuges qui sont oui, tout à fait.
Et alors, j'avais peur au début d'être effondrée, de ne pas être capable de regarder ça, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, tout en me disant, oui, mais est-ce que c'est pas un peu édulcoré, finalement, pour que ça soit pas trop dans le pathos? Donc, je sais pas, est-ce que vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez pensé de ces émissions?
Non, mais Camille, là, vous avez raison, si vous voulez, c'est que c'est vrai que c'est un peu édulcoré. Nous, on a eu 10 émissions, hein, ce qui s'appelle Sans Collier. On a parlé du refuge de la SPA de Montpellier, ouais. Mais on a plus dit les choses. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, les abandons, on les a vus en direct. On a vu aussi que c'était pas si simple que ça. Vous avez des gens qui abandonnent des chiens, et qui ont des chats, mais qui sont en cause réelle et sérieuse.
Ah oui, on a vu ça aussi, des gens qui sont vraiment en larmes, ou qui sont dans une situation dramatique.
Les maltraitances. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément montré à la télé, mais nous on a ça quotidiennement. Et ça c'est ce côté qui est très difficile. Et surtout les animaux qui arrivent dans un état de malnutrition, qui sont extrêmement maigres, parasités, et on ne sait même pas si on va arriver à les sauver. Ça c'est la réalité d'un refuge. Et après, on est tellement heureux quand un mois ou un mois et demi après, ou quand ils arrivent accidentés, ou ils sont cassés, on est obligé de les opérer en orthopédie, etc. Et qu'on les voit un mois et demi, deux mois après, ou trois mois, partir en adoption.
Ça, c'est donc, du ça, j'imagine ça, alors, que ça doit être un moment voilà. tellement il n'y a pas de mots.
Tellement
quoi.
Fort, ouais. Et ça fait oublier, vous voyez, le reste.
Ça permet de tenir
et
pour la suite, surtout.
Quand on les voit partir comme ça, heureux, et vous savez, souvent, alors, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, c'est que souvent ils partent, alors en voiture bien entendu, et les gens souvent nous font un signe. Et vous avez souvent, bon, c'est le chien, hein, il passe sa tête et il nous regarde. Comme si
ça veut tout dire,
voir,
ça veut tout dire.
Voilà, ça c'est des moments très très forts où toute l'équipe est vraiment soudée, et là on est heureux d'avoir malheureusement traversé tout ça.
Mais au moins c'était pas pour rien, ça recharge les batteries, ça j'imagine.
Ça, tout à fait.
Mais est-ce qu'à l'inverse, vous avez des gens qui sont agressifs avec vous à l'accueil, où ça peut mal se passer quelquefois, voire très mal?
Oui, bah, les gens qui sont en mal-être. Hein. On a des gens en mal-être qui viennent et qui veulent, par exemple, qu'on leur donne gratuitement un animal. On ne donne pas un animal, ce n'est pas une marchandise, et ce n'est pas non plus c'est quelque chose qui doit être... on veut savoir si la personne aura les moyens aussi de subvenir à ses besoins.
Et puis vous les avez tatoués, opérés, stérilisés, évidemment,
tout
à fait, tout ça.
Vétérinaires, etc.
Vaccinés, oui.
Voilà, et ça, c'est vrai qu'on a souvent, malheureusement, et puis on sait aussi ce type de fourrière pour la métropole de Montpellier, et là, on a des gens...
Vous êtes aussi un refuge fourrière,
oui. C'est pour ça qu'on a aussi énormément d'animaux, puisque tous les animaux de fourrière basculent automatiquement chez nous. On ne fait pas de tri, vous en doutez, donc on garde tout le monde.
Mais vous me dites on garde tout le monde, mais comment vous faites concrètement le jour où, comme vous dites, on ne peut pas pousser les murs? Comment vous arrivez à faire?
Ah ben, on pousse les murs. C'est exactement ça.
Ben oui,
vous savez, je vais vous dire, l'équipe, elle est mobilisée. Hein. J'ai un personnel extraordinaire. Les 22-23 personnes sont mobilisées et on fait tout pour que, bah, on ait de la place. Et pour ne pas laisser, justement, hein, au bord du chemin, on ne fait pas d'euthanasie pour faire de la place. Les euthanasies, on en a très, très peu. Et l'idée, c'est que dès qu'ils arrivent chez nous, ils sont malheureux et ils repartent à l'adoption. Et ça, c'est notre but. On est là pour les faire adopter, pour leur retrouver une famille. Ça nous dynamise et on pousse les murs. On les pousse, les murs. Vous savez, moi, j'ai vu ce refuge remonter à 800 animaux. Donc, vous voyez, on arrive à ça. Et c'est la volonté aussi de tout ce personnel, de tous les bénévoles qui ont le cœur de faire partir ces animaux pour qu'ils trouvent une nouvelle famille. Ça, c'est vraiment notre moteur de vie, quoi.
Moi, je voudrais vraiment vous aider le plus possible, Annie. Donc, on va lancer un appel déjà sur l'antenne. Si vous pouvez... envoyer des dons en argent, en objets, donc on a bien compris, couverture, gamelle, jouets, tout, croquettes, pâtés, tout ce qui peut servir pour les animaux. Vous vous mettez en contact avec... Alors, on va mettre plusieurs possibilités. Je pense que le plus simple, ce serait sur votre page Facebook. Redonnez-nous votre lien direct, s'il vous plaît, sur la page Facebook.
Alors, la page Facebook, c'est SPA Montpellier.
Juste ça. D'accord.
Oui.
Est-ce que vous pouvez ensuite, vous, venir sur ma page, à moi, Sabine Marin, pour mettre un lien ?
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a des gens qui iront directement là-dessus. Ensuite, si vous qui nous écoutez, vous avez envie d'intervenir pour aider ce refuge, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à libreantenne, en un seul mot, @europe1.fr. libreantenne@europe1.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à moi, sabine.marin@europe1.fr. Vous pouvez nous laisser un message, un SMS, donc 739-21, suivi du menu et de votre message. Et à chaque fois, bien sûr, mes équipes feront le relais pour Annie, vous mettre peut-être en relation directe avec des gens qui pourraient faire un peu plus que juste un envoi. On ne sait jamais s'il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider davantage.
Merci.
Lance vraiment un appel ce soir parce que c'est...
Merci pour eux.
On a tellement besoin d'eux et on est tellement à les aimer.
Oui, parce qu'ils ne demandent rien. Ils n'ont rien demandé, juste qu'on leur donne de l'amour, c'est tout.
Bon, mais vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, par contre, il y a une chose que vous avez dite là qui m'interpelle parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait de l'euthanasie quand même à la SPA et qu'au bout d'un moment, si un animal n'était pas adopté, il fallait qu'il parte.
Non, alors nous, on est une SPA complètement indépendante. Donc on a un conseil d'administration, une présidente,
d'accord,
une directrice et on fait la politique qu'on veut. Et donc nous, le but depuis 20 ans, c'est de faire le moins possible d'euthanasie et que les euthanasies soient faites pour des animaux malheureusement très gravement accidentés. Et là, souvent, ils sont même malheureusement euthanasiés dans les cliniques vétérinaires avant qu'ils arrivent chez nous. Et ou alors, malheureusement, pour vraiment ce qu'on appelle des chiens dangereux, qui ont malheureusement...
Ils ne seront jamais adoptés.
Voilà, ils sont inadoptables. Voilà. Oui. Parce que de rester toute une vie dans une cage, c'est pas une vie non plus. L'animal n'est pas fait pour être enfermé. Nous, on est là que de passage. Il faut que ces animaux, chats, chiens, ils viennent qu'en passage chez nous. Et le but, c'est l'adoption. Une nouvelle famille, une vraie vie jusqu'à leur mort. Voilà.
Il est important aussi de dire aux gens qu'il y a des bébés à adopter, des bébés chats, des bébés chiens. Il n'y a pas que des animaux adultes.
Tout à fait.
Parce que quelquefois, ça peut être un frein. Quelqu'un qui dit, moi j'ai un enfant, j'aimerais un chiot ou un chaton. Et il pense qu'il n'y en a pas chez vous.
Ah si, malheureusement, on a beaucoup de chiots, beaucoup de chatons, et on les trouve dans des cartons au bord de la route. Ça, par contre, ça c'est quelque chose de réel. Les gens ne terrorisent pas leurs animaux et font déporter. Après, comme ils sont pas capables de les faire, de les trouver des gens bien, eh ben ils les abandonnent dans des cartons. On en a trouvé dans des fossés. Alors ça c'est vraiment le. Et on a bien entendu des jeunes animaux qui sont là. Et on a aussi ce que je voudrais dire à l'antenne, parce que ça c'est très important. On a des seniors. Chats et chiens, et eux aussi, ils ont le droit de finir leur vie, qui n'a pas été souvent rose, dans un bon foyer. Et grâce à 30 millions d'amis qui nous sponsorisent, tous les animaux qui ont plus de 10 ans et qui sont adoptés, les chiens, les gens ont droit jusqu'à 600 euros de frais vétérinaires de rembourser.
Ah,
et
c'est
très, très bien. Parce que souvent, ce qui freine les gens de prendre un vieux chien, bon, bien sûr,
c'est que ça va coûter cher en soins.
Longtemps. Voilà, c'est l'argent que ça peut coûter, parce que bon, bien sûr, avec la vieillesse, les maladies peuvent se déclencher, mais 30 millions d'amis nous aident beaucoup là-dessus. Voilà.
Ça, c'est bien.
Et l'opération, c'est bien.
Il y a gens qui envoient un message en disant, rappelez aussi que les dons sont déductibles des impôts.
Tout à fait.
Effectivement, merci Jean pour ce message. On n'y a pas pensé, mais c'est important de le dire aussi.
Plus de 60, presque 70% de votre don est déductible des impôts et c'est quand même important. Vous faites un joli geste et en même temps, au niveau des impôts, ça vous aide, c'est déductible. Voilà.
Eh bien, écoutez-moi, Annie, je m'engage à le faire, ce geste.
Merci, Sabine, merci beaucoup.
Je m'engage à le faire et j'engage tous ceux qui nous écoutent à le faire aussi, même si c'est pas grand-chose. C'est ce qu'on disait, une pierre plus une pierre plus une pierre.
Oh oui, tout à fait. Même un euro, c'est très important. Voilà, tout à fait.
Et puis surtout, je vais faire parler de vous sur ma page. Et le maximum possible, parce que j'ai tellement d'admiration pour les gens comme vous, Annie. Vraiment. Vraiment.
Alors, c'est une passion, vous savez. Hein, et c'est vrai qu'au départ, on nous dit toujours, mais je ne sais pas comment vous faites. Mais une fois que vous êtes dedans, la seule chose qui vous intéresse, c'est de les sauver. Donc après, vous êtes partie là-dedans et il n'y a que ça qui compte. Quoi.
J'imagine assez bien, oui. C'est... Oui. J'imagine. Et je me suis toujours demandé si un jour, je n'allais pas tout arrêter pour faire ça, figurez-vous. Pas tout de suite, mais un jour.
Avec plaisir.
Dans une troisième partie de ma vie, m'occuper d'eux comme ça, parce que j'ai découvert, grâce à ces reportages, que c'était d'une richesse absolument infinie.
Tout à fait, tout à fait. Si vous saviez le nombre de bénévoles qu'on a et les gens à la retraite aussi qui viennent,
oui, c'est à ça que je pense. Oui,
ben
oui.
Ces gens-là, voilà. Et ils font cette bonne action. Et vous savez, comme ils disent, c'est souvent addict. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer. C'est ça qui nous revient souvent dans la parole de ces bénévoles. C'est extraordinaire.
C'est ce que j'ai compris grâce à ces reportages que j'avais vus, parce que je craignais, moi, le côté trop douloureux. Je me disais, je ne vais jamais supporter ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, parce qu'il y a aussi des compensations, justement. C'est ça qui fait qu'on tient.
Tout à fait. Mais si vous saviez, vous savez, ils attendent 14 heures. Les animaux, ils savent que les bénévoles vont arriver. Ils le savent, que ce soit les chiens. Si vous les voyez comme ils sont heureux, ben bon, les chiens, ils se mettent à japper, etc., à sauter partout. Et les chats, c'est pareil, ils les attendent derrière la porte. C'est extraordinaire.
Oh, c'est mignon. Et est-ce que je vous cueille un peu à froid, mais est-ce que vous avez un souvenir particulièrement touchant, particulièrement beau d'une adoption exceptionnelle? Quelque chose qui vous a marqué?
Je pense toujours à Nuggets. Nuggets, c'est un chien qui a été adopté il y a quelques temps maintenant, qui nous est arrivé avec... il avait été certainement mal formé, et il avait tout un côté écrasé. C'est-à-dire qu'il avait un double nez, il avait la patte avant de travers et la patte arrière de travers.
Oulala.
Et on l'a appelé Nuggets. Et un de nos animaliers l'avait pris en famille d'accueil. Et c'était un chien, il était dans les bureaux, et il venait dans les bureaux, il venait nous voir, il passait la journée avec nous dans les bureaux, et c'était devenu la mascotte de la SPA de Montpellier. Et un jour, une charmante dame est venue, elle avait déjà deux petits chiens comme ça, et elle nous a dit qu'elle avait vu Nuggets, elle avait vu sa photo, et qu'elle voulait faire cette bonne action. Et Nuggets est heureux maintenant, on a souvent des nouvelles, et Nuggets restera toujours dans notre cœur, parce que ça a été vraiment la mascotte.
Et,
ah oui, c'était extraordinaire, complètement déformé, mais alors un courage extraordinaire, on l'a opéré hein, plusieurs fois. Et c'était un battant, il s'est battu pour sauver sa vie. Et Nuggets, c'est vraiment c'est la mascotte.
Ça, c'est chouette. Et justement, pour parler de choses positives, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous donnent des nouvelles de leur adopté?
Oui.
Qui gardent un lien avec vous?
Ouais. D'ailleurs, sur notre site ou sur Facebook, on voit beaucoup de gens qui nous donnent des nouvelles. Et ça on est très, très, on est très heureux. Voilà. C'est ce qui nous guide, vous savez. C'est ça. C'est de les voir heureux, enfin heureux, grâce au fait qu'ils soient quand même passés par la SPA de Montpellier.
Et que c'est grâce à vous et que ce que vous avez fait a servi.
Ouais. C'est ça. Que les bénévoles, le personnel a fait, ça c'est extraordinaire.
Mais je vous avoue qu'en regardant les reportages sur la SPA, j'ai pleuré, mais non pas de colère, mais de joie aussi quand je voyais les adoptions. Et le regard de l'animal quand il comprend qu'il va partir.
Ah, ils comprennent.
Ah là là, c'est tellement poignant.
Autant ils comprennent, vous savez, quand ils sont abandonnés. Vous savez, il faut voir le regard de ces animaux.
Oh,
quand ils sont
ça.
Abandonnés, ils savent ce qui va leur arriver. Mmh. Mais quand ils partent, c'est un regard extraordinaire, étincelant, etc. Ils savent qu'ils vont partir. Et ils nous regardent et ils nous disent au revoir.
Et
ça, c'est quelque chose d'incroyable.
Bien sûr. Et je vous dis, j'ai quand même découvert tout ça grâce à ces reportages. Parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds dans une SPA. J'avais trop peur, sincèrement, de ne pas tenir le coup. Je me suis dit, si j'y vais, je vais m'écrouler. J'ai adopté des animaux, mais dans des petites associations. Où ils étaient juste dans des heures de famille, un peu famille d'accueil. Mais j'ai toujours eu peur
de... C'est pas triste, il faut pas.
Ben
faut
c'est
pas
ce que j'ai découvert grâce à ces reportages justement, oui.
C'est ça. C'est pas triste parce qu'il faut vous dire que si vous venez ou que ce soit pour les aider, les promener ou caresser, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux parce que vous leur donnez du bonheur. À l'instant où vous êtes là, ils sont heureux. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire.
Oui, c'est sûr. Mais moi, je me souviens un jour où j'ai adopté comme ça un chat il y a longtemps, une petite chatte en l'occurrence. Il y en avait un autre que j'ai eu dans les bras, un chat roux. Et j'ai longtemps hésité, puis il a fallu que j'en prenne un, bien sûr. Et toute ma vie, encore aujourd'hui, je pense au chat roux que j'ai pas.
Vous regrettez de pas avoir pris l'autre.
C'est pas que je regrette, c'est que j'ai de la peine pour lui. Mais j'étais très jeune, j'étais étudiante, j'avais pas de place. J'en ai pris une petite déjà pour elle. Mais vous voyez, comme quoi, 30 ans plus tard, je pense encore à ce chat roux que j'ai pas pu sauver, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut arriver à surmonter ça si on veut franchir votre porte et se dire que oui, c'est dur pour ceux qui restent, mais pour celui que vous choisissez, c'est vraiment formidable, quoi.
Et puis même le fait que vous veniez, c'est très important parce que vous faites ce geste, mais d'autres personnes vont le faire aussi. Et vous allez parler de la SPA de Montpellier, vous allez parler de ces animaux et les gens vont venir. Vous voyez, c'est ça, c'est une espèce de chaîne de solidarité, c'est ça qui est important. Et plus on a de monde qui vient, on va adopter ces animaux et c'est ça qu'il faut.
Parce que les vacances, c'est aussi l'occasion d'avoir du temps là, cette semaine qui vient pour justement aller dans les SPA. avec les enfants et faire des premières rencontres et commencer à chercher un petit compagnon, mais pour des bonnes raisons et pas pour le Covid.
Tout à fait. Et inculquer aux enfants le respect des animaux et le fait que l'animal, c'est pas un objet, c'est pas un jouet. Et comprendre un animal, si on peut le prendre, si on peut pas le prendre, il faut pas en avoir. Et puis, il faut faire des gens qui n'ont pas d'animaux, des gens qui en prennent pour les abandonner après.
C'est ça, c'est évidemment innommable. Et en plus, ce qui est intéressant chez vous, c'est que je crois que tous ceux qui travaillent avec vous savent conseiller les gens en fonction de ce qu'ils peuvent ou ne pas peuvent ou pas assumer derrière. Des gens qui viennent vous dire « moi je veux un pitbull ou un doberman » et qui sont dans un studio de 10 mètres carrés ou qui n'ont jamais eu de grand chien, vous pouvez être là pour leur dire « peut-être non, ce n'est pas une bonne idée, ils sont guidés chez vous, hein, c'est ça ?»
Ah, c'est clair, Sabine, que la personne arrive avec une idée préconçue. Souvent, l'animal, ils ont vu sur Internet, sur les photos, etc. Mais quand on nous décrit leurs conditions de vie, nous, on leur dit « non, mais celui-là, ça ne sera pas possible ». Donc, on préfère dire non que la personne reparte, si jamais ils sont fixés sur cet animal, que de prendre l'animal et de le ramener, parce qu'on sait que de toute façon, ça ne marchera pas.
Ouais, c'est ça.
C'est pas possible.
Il y a des races, en dehors même de l'espace, il y a des races qu'il faut connaître, qui ne sont pas faciles à gérer.
C'est ça. Ben, vous voyez, comme les border collies ou les bergers australiens, vous avez des gens qui vivent en studio qui ne veulent pas. Nous, on leur dit, mais ça, ce n'est pas possible. Ce sont des chiens qui ont énormément besoin de se dépenser, ce sont des races qui ont besoin de courir, besoin de beaucoup de sport. Non, en appartement, ce n'est pas possible. C'est impossible. Ou alors, il faut vraiment avoir quelqu'un qui peut leur consacrer 3 heures par jour pour aller faire courir ou marcher dans la forêt et les promener pendant plusieurs heures.
Et de toute façon, je pense que vous avez évidemment raison de dire non, parce que quelqu'un qui insiste et qui bloque sur une race en particulier...
C'est un caprice.
Voilà, c'est ça. Ça ressemble plus à un caprice qu'à vraiment quelqu'un qui s'y connaît.
Voilà, c'est ça.
Et le caprice, il va revenir chez vous 6 mois après, quoi.
Exactement, Sabine, c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Covid, où les gens, si vous voulez, n'ont pas réfléchi et ont été à prendre des animaux un peu partout. Pas chez nous, hein. Parce que nous, les animaux qui ont été adoptés chez nous, ils ne sont jamais revenus pendant la Covid. Mais ce sont des animaux qui arrivent de partout, souvent des particuliers qui, vous savez, qui font des portées, etc. Et ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il n'y a pas de réflexion. C'est, si vous voulez, un coup de cœur, un caprice. Et on prend l'animal pour faire une compagnie, pour avoir une compagnie ou aller pouvoir sortir pour aller promener. Parce que vous savez qu'on avait l'autorisation,
oui,
quand on avait un animal de compagnie, aller, de le sortir dehors.
Mais j'ai prêté le mien à certains amis comme ça. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus sur l'adoption. Je ne sais plus ce qu'on se disait là sur les mauvaises raisons d'adopter. Oui, voilà, c'est ça.
Ouais. Il faut qu'elle soit réfléchie.
Et qu'on comprenne aussi que c'est un engagement. Alors, quand on prend un jeune chien ou un jeune chat...
C'est 15 ans.
Voilà.
On dit toujours qu'on a un minimum pour 15 ans.
Et voilà, à l'inverse, on parlait des seniors. L'avantage aussi de prendre un chien qui a déjà 2, 3, 5 ou 10 ans, c'est qu'il y a beaucoup moins de bêtises et c'est beaucoup plus facile à vivre aussi. Pour quelqu'un
tout
qui peut
fait.
Être plus âgé.
Tout à fait.
Quelque chose comme
tout
ça.
À fait. Mais voyez, par exemple, un senior de plus de 10 ans, quand les gens habitent dans les appartements sans ascenseur, on leur dit attention, le chien va avoir de l'arthrose, souvent il va avoir du mal à monter les escaliers. Vous voyez, ça fait partie de la discussion aussi. Vous voyez,
ouais, c'est important.
C'est de faire une bonne action, c'est bien, mais pouvoir la faire dans de bonnes conditions, c'est encore mieux. Voilà.
Et c'est pour ça que vous êtes là. Si vous le permettez, Annie, on va accueillir ensemble Philippe qui nous a appelé car il souhaitait intervenir. Est-ce que vous êtes d'accord, Annie, qu'on partage notre conversation ? Philippe, est-ce que vous êtes là ?
Oui, bonsoir Sabine.
Bonsoir Philippe, je vous présente Annie. Donc Annie, Philippe,
oui,
Philippe,
bon,
Annie.
Bonsoir. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Philippe ?
Alors, moi je vais vous parler d'une histoire d'animaux maltraités, mais plutôt d'oiseaux maltraités. On parle des chiens et des chats, mais il y a aussi des tas de gens qui ont chez eux des animaux, surtout qui ont des oiseaux en cage.
Alors pardon Philippe de vous couper, justement Annie, est-ce que vous avez d'autres animaux que des chiens et des chats ? J'ai pas pensé à vous
demander.
Alors
on intervient pour des maltraitances de chevaux et d'autres animaux, mais nous les prenons pas nous dans notre refuge. On les confie à des associations qui sont spécialisées dans ces animaux-là. Mais nous on intervient pour toutes les maltraitances, bien entendu.
Et les oiseaux non, par contre ?
Oui, des oiseaux, on a des oiseaux qui sont abandonnés, qui nous les laissent devant la porte, dans des cages. Ça, c'est quelque chose d'effroyable. Ces animaux ne sont souvent même pas soignés, ils ne se connaissent absolument pas. Et ça, de toute façon, ça, tous ces animaux-là, c'est une catastrophe.
Alors, Philippe, racontez-nous.
Alors, donc, ce sont des gens que j'estime beaucoup, parce que pourtant, ils font des tas de choses à côté qui sont très intéressantes. Mais ils ont chez eux des animaux en cage, entre autres des colombes, et il y avait une perruche. Donc, l'année dernière, j'ai fait passer le premier confinement chez eux, et donc cette perruche, je voyais que dans sa cage, elle souffrait, qu'elle mordait les barreaux de la cage, qu'elle criait quand on sortait parce qu'elle était dans la véranda. Visiblement, c'était, vous voyez que cet animal, il voulait, cet oiseau voulait sortir de sa cage. Alors au bout de 4 semaines, j'avais réussi à obtenir de monter la perruche, la cage de la perruche dans ma chambre, et j'avais ouvert la cage et la perruche déjà pouvait tourner dans ma chambre et puis aller aussi dans le salon. Mais on m'avait donné comme condition que surtout il fallait pas qu'elle se sauve, ce qui était tout à fait normal. Alors le problème dans ces cas-là, bah, c'est que les oiseaux, bah, ils font aussi beaucoup de crottes, donc il faut les nettoyer. Alors bien entendu, je faisais très attention. Et puis j'avais en tête bah, la fameuse chanson de Pierre Perret, Ouvrez la cage aux oiseaux.
Oui, mais vous savez que ce n'est pas une bonne idée quand ils ne savent pas se gérer tout seuls.
Bon, qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée?
De les libérer.
Ben, écoutez, quand on voit cet oiseau qui souffrait, moi, à partir du moment où j'ai ouvert la cage, l'oiseau, il s'est mis à chanter. Il venait le matin, il venait se percher sur ma tête. Quand on prenait le petit déjeuner, j'ai donné une biscotte et crac, 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 il grignotait la biscotte. Et donc ça a duré pendant les 3 semaines. Et puis après, quand je suis reparti, bah, la perruche l'a compris et je me souviens qu'elle s'était envolée, qu'elle avait été se mettre sur sa cage. D'un air de dire, tu t'en vas, mais maintenant voilà ce qui m'attend. Enfin, c'est le sentiment que j'avais eu. Mmh. Bon, moi je suis rentré, je continuais à aller les voir de temps en temps et bah, bien entendu, ils avaient remis la perruche en cage. Des fois, ils la ressortaient, ils la remettaient. Et pendant l'hiver, il y a juste un an, je m'étais aperçu qu'il y avait un couple de perruches dans le parc à côté de chez moi, bah, qui apparemment s'était adapté à la vie.
À la vie extérieure.
À la vie extérieure, voilà. Bon, et puis donc, bah, je continuais à aller chez ses amis plus ou moins régulièrement. Et donc, les perruches étaient très souvent enfermées, surtout, c'est qu'ils ne nettoyaient même pas la cage. Et enfin, ils avaient retrouvé à cette perruche une copine ou un copain, je ne sais pas.
Oui, parce qu'il me semblait bien que les perruches, il faut les laisser à deux, hein.
Ben oui, mais lui, il était tout seul, justement, l'année dernière. Ouais. Enfin, je crois que c'était un mâle, et donc ils avaient retrouvé une femelle, ce qui était sympathique, mais dans une cage grande, vraiment tout exigu. Enfin, franchement, je trouvais ça... Alors donc, moi, quand je passais, je nettoyais la cage, je redonne à manger, je remettais de l'eau propre. Et puis, je suis allé... je résume beaucoup. Je suis allé la semaine dernière... les voir, donc, mercredi de la semaine dernière, et les animaux étaient enfermés, tout tristes. Et en plus, je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un dans cette maison qui les maltraitait, qui, le soir, tard, fumait, laissait la lumière allumée. Quand la perruche, à un moment, a eu le malheur de faire un moindre petit cri, il lui a répondu « ta gueule ». Alors là, j'ai craqué. J'ai mis mon réveil à 2h30 du matin. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, puisque les oiseaux ils te gênent tant ici au premier étage, on va aller descendre dans la véranda. À 2h30 du matin, je me suis levé, je me suis habillé tout doucement, enfin, j'ai fait le moins de bruit possible. Je suis descendu dans la véranda, j'ai pris la cage et je suis parti, j'ai traversé le patio à toute vitesse. Je suis monté dans ma voiture et j'ai ramené les perruches chez moi. Je les ai gardées une journée chez moi et... Donc vendredi et en début d'après-midi, je suis allé au parc où il y avait déjà les deux perruches que je voyais de temps en temps. Et j'ai ouvert la cage. Donc la première perruche, elle est partie, elle a fait deux grands cercles autour de moi et elle est partie dans les arbres. Mais par contre, la deuxième avec qui j'avais, je peux plus dire, sympathisé depuis plus d'un an et demi, elle ne partait pas, elle restait, elle venait se percher sur mon épaule, sur le sac à dos. Elle faisait l'admiration de tous les passants. Ça a duré 2 heures comme ça. Puis quand je lui ai dit, écoute, moi, faut que je rentre, alors est-ce que tu veux venir avec moi? La perruche, elle avait l'air d'hésiter, elle est venue se percher sur ma tête. Et puis tout à coup, boum, elle est partie aussi, elle a fait deux grands cercles, et elle est partie dans les arbres en poussant des cris, mais c'était extraordinaire de voir la joie dans laquelle devait être cet oiseau. Voilà, et depuis, malheureusement, je suis retourné plusieurs fois dans ce parc, il m'a semblé que je les ai aperçus l'autre jour, et ils ont l'air de s'être très bien adaptés à la vie parisienne, voilà.
Alors, merci pour ce témoignage, Philippe. J'avoue que j'y connais rien aux oiseaux. Annie, est-ce que vous pensez que c'est jouable, ça, ce qui s'est passé?
Alors, moi, je suis absolument contre tous les oiseaux en cage. La protection animale, on trouve que c'est pas normal de les laisser en cage. Mais ce qui est pas normal, c'est de les déplacer, ces oiseaux. Ces oiseaux sont pas d'ici.
Et je pense qu'il faudrait les laisser d'où ils viennent, c'est de les faire.
Si vous saviez comme il y en a, moi je suis en région parisienne, il y en a des centaines dans le parc à côté de chez moi.
C'est ça. Et vous savez, comme les tortues, vous savez, les tortues, c'est pareil, les tortues d'eau, il y en a plein dans les... Enfin, je trouve ça complètement débile, excusez-moi. Et le témoignage de Philippe est probant. Ces animaux dans des cages exiguës, c'est inacceptable. Les gens ne se rendent pas compte que... Enfin, la chanson de Pierre Perret, c'est vrai qu'elle est flagrante. Hein. Alors après, de les relâcher, le problème, c'est vrai que c'est que malheureusement, quelques animaux ne vont pas s'adapter parce qu'ils sont tellement habitués en captivité qu'ils n'arriveront pas à s'adapter. Mais est-ce que ce n'est pas mieux quand même de leur faire connaître la liberté? Ça, c'était une grande... Enfin, moi, personnellement, je préfère ça que...
Ils vivent moins longtemps, mais en liberté, que plus longtemps, mais enfermés, quoi.
Ouais, ouais, je pense que c'est pas... Ils vivent dans leur pays d'origine, dehors, ils sont en liberté. Alors, ils aiment le contact avec l'humain. Quand vous voyez ce qu'il vous traduit, Philippe, qui viennent sur son crâne ou sur ses épaules, c'est ça, c'est vrai que les oiseaux, on arrive à créer des liens avec eux. Mais les voir enfermés dans une cage, c'est pas possible.
Et Philippe, comment vous vous sentez d'avoir fait cette action ?
Je suis rentré chez moi, j'étais entre le bien-être d'avoir sorti ces deux oiseaux, puis des fois les larmes aux yeux. Mes sentiments alternaient entre ces deux. Entre ces deux pôles, si je puis dire. Mais moi, franchement, je pense que je rejoins le point de vue de madame, c'est que vaut mieux, je sais pas, une semaine ou même 3 jours de liberté que passer le restant de sa vie en cage, enfermé, triste, parce que vraiment, il fallait voir quelle était. On se sentait sur leur tête, hein, cette tristesse. Et puis surtout, c'est cette extraordinaire intelligence de cet oiseau. C'est ce que j'avais compris l'année dernière pendant le premier confinement. Ils ont une petite tête, mais je peux vous dire que... Qu'est-ce qu'ils sont intelligents.
C'est ce qu'a l'air de dire Annie. Je vous avoue que c'est vrai que j'y connais rien du tout en oiseau. Ça, c'est un domaine qui m'échappe.
Bah, moi non plus, mais voilà,
vous avez appris l'année dernière. Vous n'avez pas eu de soucis avec la personne qui les maltraitait, justement?
J'ai envoyé un mail pour m'expliquer. Je pensais recevoir un coup de téléphone absolument incendiaire. Et je n'ai pas de nouvelles depuis 8 jours.
Ils s'en fichent complètement.
Voilà. Oui. Alors, ça se trouve, ils s'en foutaient, je sais pas.
Ça vous conforte dans l'idée que finalement, ils sont mis en liberté, hein.
Ah, moi, je pense que quand je vois comment ils sont partis, comment tous les deux, ils ont fait à chaque fois un grand cercle, ils partaient dans les arbres. Et lundi, j'ai revu les deux. Il y avait 4 perruches dans le parc, alors que d'habitude, ils n'étaient que 2. Et comment ils allaient, ils se promenaient, mais vraiment, ces 2 perruches, je suppose que les 2 autres, il y avait 2 vertes, j'ai pas pu bien les distinguer, les 2 autres, mais visiblement, je pense que c'est les 2 perruches que j'avais remis en liberté. Et comment, elles sont parties.
Ça serait sympa qu'elles aient été adoptées par les 2 autres, finalement.
Apparemment, oui. Lui, quand il est parti, quand il m'a quitté au bout de 2 heures, il a pu retrouver sa copine et ils ont pu retrouver 2 autres perruches. Et apparemment, ils sont bien adaptés à la vie à côté de chez moi. Voilà.
Ah, c'est chouette.
Donc, je vais régulièrement dans ce parc voir si je peux les retrouver avec un peu de nourriture. Si des fois, j'espère les retrouver. Quoi.
On ne sait jamais. Venez en faire un petit coucou.
J'aimerais bien que oui, pouvoir les retrouver. Mais alors, je ne sais pas maintenant. Est-ce qu'elles peuvent se Est-ce qu'elles ont peut-être perdu aussi le sens de l'orientation? Mais je sais que je vais régulièrement dans ce parc maintenant, en espérant les retrouver. Voilà.
En tout cas, c'est une belle histoire. Merci infiniment, Philippe, d'être intervenu ce soir.
De rien. Je vous remercie aussi pour la qualité de votre émission. Enfin, pour une fois, on parle... je pense que, vous voyez, la maltraitance animale, c'est lié aussi à la maltraitance chez les gens. Une société qui respecterait ses animaux, s'il n'y avait pas tous ces élevages industriels, les abattoirs, je pense que notre société irait aussi beaucoup mieux.
C'est ce que disait Annie pour commencer, et je suis entièrement d'accord avec ça.
Moi, j'ai 36 ans de végétarisme, en plus je me porte très bien. Je suis jamais malade, j'ai même une santé de jeune homme, d'après ce qu'on m'a dit il y a 2 ans, quand j'ai fait le bilan de la sécu. Voilà. On peut facilement remplacer la viande en plus.
Merci beaucoup Philippe de votre intervention.
De rien.
Merci beaucoup.
Bien, bravo et continuez aussi.
Merci à vous. Oui Annie, c'est intéressant aussi de parler des oiseaux, c'est vrai qu'on en parle moins.
Mais tout à fait.
Mais maltraiter des oiseaux, ça c'est un truc qui me sidère aussi. C'est ça.
Sabine, un oiseau, et c'est pour voler. On ne peut pas voler dans une cage, c'est impossible. Surtout que c'est souvent des cages très exiguës, comme l'a dit. C'est quelque chose. Enfin, moi, quand on les voit comme ça, nous. Non. Moi, je ne veux pas supporter. C'est quelque chose. Vous savez, et c'est comme bon, si on reparle aussi des animaux de cirque, c'est une absurdité.
Mais est-ce que ça y est maintenant? Est-ce que c'est interdit? C'est passé la loi ou pas? Il me semble que oui.
Alors, oui. Oui, oui, vous avez vu la loi d'Ombreval, là, ça y est, on a réussi à ce combat, hein, et, donc il n'y aura plus de cirque avec des animaux d'ici 2 ans, je crois, et c'est quelque chose, de, quand vous voyez des lions dans des cages exiguës ou des roulottes exiguës, enfin, c'est quelque chose de innommable. Ces animaux-là, si on veut les voir, là je suis allée à Montpellier, il y a un cirque sans animaux, hein, le cirque Bourbillon, ils ont fait 100% humain. On les voit par hologramme.
C'est ça, j'ai entendu parler de ça, il paraît que c'est extraordinaire.
Ah, c'est extraordinaire. Moi, je suis allée voir, les bougillons sont super. C'était vraiment des précurseurs là-dedans. Et on voit des animaux qui viennent vers vous. C'est des hologrammes. On a l'impression de les toucher. Et vous les voyez vraiment comme ils sont. Et vous les voyez dans la savane. Et ça, c'est ça. Mmh. Ce n'est pas des animaux qui sont faits pour être enfermés dans un cirque pour montrer quoi ? Pour montrer qu'ils donnent la patte ou qui c'est ridicule. Un animal sauvage reste un animal sauvage, il doit être dans la savane. Et un oiseau doit voler, voilà, point barre, il ne doit pas être dans une cage.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le respect, c'est ce que disait Philippe, et ce que vous disiez tout à l'heure, si les hommes respectaient les animaux, ils se respecteraient aussi entre eux davantage.
Non. Et puis bon, aussi, bah, soulever le problème des abattoirs. Mais c'est vrai que
respect de l'animal... Là, moi, je ne peux plus, là. Ça, c'est pareil, c'est insoutenable.
Le respect de l'animal, il est là aussi. C'est qu'à un moment donné, des animaux qui donnent leur chair pour qu'on puisse manger, ils doivent avoir... vraiment le respect.
Le respect, évidemment, tout ce qui
est. Et le stress qu'ils ont, c'est fait que, effectivement, les gens qui mangent de la viande, moi, j'en mange pas depuis très très longtemps, mais les gens qui mangent de la viande ne se rendent pas compte que le stress n'est pas bon du tout et qu'ils peuvent manger de la viande qui n'est pas bonne.
Tout à fait.
Parce que le stress, l'animal est.
Génère des tâches. Mais tout à fait. On va devoir se quitter, Annie. On va quand même rappeler, parce que vous voyez, j'ai encore des mails qui demandent si vous avez une page Facebook. Il y a peut-être des gens qui ont pris la conversation en cours de route et qui n'ont pas noté. Donc, votre page Facebook à vous, elle est toute simple.
SPA Montpellier.
SPA Montpellier. Sur ma page Sabine Marin Public, vous allez mettre un lien et moi, je vais le mettre aussi.
Tout à fait.
Je me suis engagée à vous faire un don, je le ferai. Et j'invite tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à faire ce qu'ils peuvent. Que ce soit financièrement, matériellement, moralement, humainement. Si vous pouvez vraiment aider les SPA et surtout celles de Montpellier, s'il vous plaît, faites-le parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Merci Sabine, vous êtes vraiment une belle personne. Voilà.
C'est gentil Annie, je crois que c'est surtout vous qu'il faut remercier. Moi, j'ai rien fait, pas grand-chose par rapport
à
vous.
Non, c'est des gens comme vous, des petits. Vous savez, c'est très important. Et pour aider toutes les SPA, c'est très très important.
En tout cas, merci de votre appel Annie. Est-ce que j'aimerais, s'il y a des choses sympas qui se passent, c'est que dans quelques temps, vous me rappeliez pour me raconter la suite.
Bien sûr, il n'y a pas de souci.
On va rester en contact, de toute façon, je vous le promets.
Merci. Merci à Europe 1 et merci Sabine.
Merci de votre appel Annie, je vous embrasse.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
C'est de 6 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur la libre antenne d'Europe 1. Et nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à partager. Une heure pendant laquelle vous pouvez continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole ce soir ou même déjà vous inscrire pour parler demain ou dimanche. Vous faites le 39-21, vous tomberez sur Cindy et sur Nicolas qui vous accueilleront avec beaucoup de bienveillance et qui vous guideront ensuite jusqu'à moi 39-21 donc pour prendre la parole. Si vous voulez intervenir par SMS, réagir à ce qui s'est dit, donner un avis, apporter un soutien justement ce soir, demander d'être mis en relation avec quelqu'un, vous faites le 7-39-21, suivi du mot nuit et de votre message. Je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Corinne que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Sabine, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous.
C'est gentil.
L'expérience que je mène avec mon mari depuis peu de temps est vraiment une expérience qui me comble. Alors, à savoir que nous avons la chance dans notre région d'avoir ce qu'on appelle un centre handichien.
Dans quelle région êtes-vous ?
Je suis en Normandie.
D'accord.
Voilà. Donc, Anti-Chien, c'est quoi? C'est une association, je pense, 1901, et qui a pour mission d'élever des chiens. Des chiens qui sont, bah, généralement, c'est plutôt des labradors, des golden, parce que ce sont des chiens qu'on arrive à bien éduquer. Pourquoi bien éduquer? Parce que ce sont des chiens qui sont remis au terme de leur éducation. Je ne parle pas de dressage, hein, je vais parler d'éducation. Mmh. À des personnes handicapées. Alors, personnes handicapées moteurs, hein, des gens qui sont en fauteuil roulant, des personnes, bah, des enfants, hein, avec des troubles autistiques, des personnes, ce ne sont pas les non-voyants, hein, c'est pas un centre qui forme les chiens pour les non-voyants.
Ah bon, je pensais que les centres formaient les chiens pour tout le monde.
Pas en dix chiens, là, celui dont je vous parle et pour lequel nous œuvrons actuellement, non. Non, non. C'est vraiment que pour les personnes en handicap moteur et autistiques, enfin bon, des gens qui ont besoin d'assistance, hein, qui ont besoin d'assistance.
C'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de non-voyants parler de leur expérience avec leur chien.
Absolument.
Mais là, c'est un angle différent. Et quel est votre rôle dans cette histoire à vous?
Alors, que je vous explique. Le chien, lorsqu'il est à l'état de chiot, on le donne à ce qu'on appelle une famille d'accueil, donc pendant 18 mois. Donc ce chien, pendant 18 mois, va être à temps complet dans une famille d'accueil et il bénéficiera bien sûr d'une formation au sein de cette famille, puisque c'est une famille qui est formée. Et ils auront l'aide, bien sûr, ponctuelle d'un instructeur.
Ah, je ne savais pas, c'est la famille qui forme le chien.
Oui, bien sûr, avec en collaboration étroite, bien sûr, avec les gens du centre. Oui. Voilà, avec un éducateur qui doit venir, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais au moins deux, trois fois par semaine, parce qu'ils ont quand même, je pense qu'au total, ce chien doit répondre quand il est à l'âge adulte, enfin quand il est prêt à être donné à ces gens qui en ont besoin, il est capable de réaliser 52 ordres, oui, une cinquantaine d'ordres.
Une cinquantaine, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais.
Voilà. Donc, ce chien, il passe donc 18 mois dans une famille complète, mais au terme de ces 18 mois, il réintègre le centre à temps complet, pendant 6 mois.
Ah oui.
Et là, l'éducation intensive. C'est-à-dire que c'est du lundi au vendredi.
Il rentre en pensionnat, quoi.
Voilà. Et nous, nous sommes devenus famille d'accueil relais. Alors, c'est quoi cette famille d'accueil relais? C'est qu'au terme de pendant ces 6 mois, on demande à des gens s'ils veulent bien accueillir pour un week-end un chien, de façon à le sortir de son milieu. Tout en continuant, parce que nous ne l'éduquons pas, mais tout en continuant à respecter certaines règles.
Il ne s'agit pas de tout détruire pendant le week-end. Je me disais en vous écoutant, c'est quand même dur pour l'animal. Il passe des mois dans une famille chouchoutée et d'un seul coup, il passe quand je dis en internat, en souriant, mais c'est quand même pas facile pour lui.
Ben non, mais on parle du chien, mais je pense aussi, moi je sais pas si je serais prête aujourd'hui à prendre un bébé chiot jusqu'à ses 18 mois et après le laisser, quoi.
Oui, c'est difficile, voilà. Ça va pas être facile. Je crois qu'il faut être vraiment formaté dès le départ et être bien, bien accompagné.
Ouais, c'est ça. Donc nous avons été informés par la presse, et puis je connaissais, et puis maintenant je suis à la retraite depuis très peu de temps, et je n'ai jamais eu la chance d'avoir un chien chez moi, parce que ma maman n'était pas prête, et je n'ai jamais donné non plus la chance à mes 4 enfants d'avoir un chien. Donc, ça veut dire que moi, j'étais totalement en chien. J'étais même à demander combien de fois il faisait caca, combien de fois, comment ça se passait, combien de fois il fallait leur donner à manger.
Vous avez acheté les chiens pour les nuls, quoi.
Presque ça. Mais l'association nous permet d'avoir des cours. Donc, on a été en formation pour nous expliquer. Et puis, bon, ça a été, la situation pour moi a été dédramatisée très facilement. Donc, on a vu les chiens, on a pris connaissance avec les chiens. Et donc, là, ça fait plusieurs week-ends où on met un chien en pension. Et c'est vraiment génial. C'est génial.
Alors, vous allez me raconter, mais pourquoi ça plutôt qu'en prendre un pour vous?
Bah, peut-être que c'est, allez, on va dire, peut-être un apprentissage. Comment je vais, est-ce que je suis prête à prendre un chien? Alors, si c'est un chien comme eux, je veux bien. Peut-être qu'un autre chien, mais si je l'élève, il va être comme lui. Hein, c'est incroyable. Ils demandent beaucoup d'attention, ils font beaucoup de câlins, ils font beaucoup de caresses. Mais bon, par contre, c'est des chiens, ils ne vont pas rentrer dans votre chambre à coucher, ils ne sautent pas sur vous, ils ne montent pas sur les canapés, parce que tout ça, on leur a déjà appris. Parce que bon, il s'avère que s'il est avec une personne handicapée, il ne peut pas aller se coucher sur un lit, il ne peut pas non plus lui sauter sur le fauteuil. Donc voilà, c'est... Oui.
Est-ce qu'on vous confie le même chien tous les week-ends? Parce que là aussi, il peut y avoir un risque d'attachement.
Pas du tout.
Ah voilà, ils y ont pensé.
Pas du tout. Alors la première, elle était adorable. Le deuxième, un peu plus immature, mais adorable aussi. Et puis ben non, on n'a jamais le même. Et puis parfois, on fera la surprise de revenir peut-être à un qu'on a déjà eu. Mais bon, pour l'instant, pour vous dire, il y a 15 chiens actuellement qui sont élevés. Et il y a quand même 35 familles d'accueil relais, donc on n'a pas de chiens tous les week-ends.
Et d'accord, puis... il y a beaucoup de gens qui sont partants alors pour ça.
Et ben oui,
est-ce que vous faites ça bénévolement?
Ah oui, bien sûr.
Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une rémunération.
Non, la seule chose, c'est que bon, on n'achète pas les croquettes aux chiens. Ouais. Parce que ils ont des croquettes bien bien spécifiques à eux, avec un grammage bien spécifique à respecter.
Bien sûr.
Et puis on enregistre ce qu'ils ont mangé, comment s'est passé le week-end, comment s'est passé la balade. Parce qu'en plus c'est des chiens qui aiment beaucoup l'eau, donc il faut éviter de les laisser partir dans l'eau.
Oui, voilà. C'est intéressant comme témoignage, parce que moi je connaissais l'avant et l'après, c'est-à-dire je connaissais l'étape première. Et puis l'étape de la remise du chien, je ne savais pas qu'entre les deux, il y avait cet entre-deux, justement.
Voilà, écoutez, nous, on est concernés par justement cette période charnière des 6 mois avant que le chien soit donné à la personne.
Ils ont quel âge quand ils sont donnés, à peu près?
2 ans.
2 ans.
2 ans.
D'accord. Et quelque chose me dit que ça va vous amener à une adoption, cette histoire.
Eh bien, vous avez tout deviné, Sabine. Bien sûr, bien sûr. Et puis, même ma fille qui est étudiante, parce qu'on a des grands-enfants, ma dernière fille qui est étudiante, j'ai l'impression qu'elle revient plus les week-ends où le chien est là que quand il n'est pas là.
Voilà une motivation. Allez à Montpellier rencontrer Annie, elle a plein de chiens.
Oui, c'est ça, j'ai entendu.
Et oui.
J'ai entendu. Voilà, donc c'était un petit peu, le témoignage que je souhaitais faire, parce que je trouve que
cette association... C'est un homme intéressant aussi, oui, tout à fait.
Voilà, c'était tout à fait, en plus, cette association, c'est aussi une association tout à fait louable, et ils font vraiment de grandes, grandes choses.
Bah, donnez-nous leur nom.
Andy Chien.
Andy Chien, d'accord, parfait.
Andy et Chien.
Merci de votre appel, Corinne.
Merci infiniment, Sabine, et merci pour tout ce que vous faites.
C'est gentil, je vous embrasse très fort.
Merci, moi aussi. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et c'est Jade que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir, Jade.
Bonsoir.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous avions fait connaissance le week-end dernier.
Oui.
Mais qu'il nous restait très peu de temps pour parler, donc je vous avais proposé qu'on se reparle ce week-end. Donc voilà, promesse tenue.
Voilà. Je peux vous parler un peu plus puisque je suis sous anxiolytique. Et je vais commencer à vous raconter l'histoire de mon fils qui a disparu depuis une semaine. Il s'est sauvé à l'hôpital.
Alors vous aviez un fils, pardon, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, qui souffre de schizophrénie.
Mon fils est malade depuis l'âge de 17 ans. Il a 28 ans.
Oui.
Alors, au début de la maladie, la maladie, elle s'est déclenchée à cause de la prise du cannabis. Et après, bon, la première hospitalisation, c'était à 17 ans.
Mmh.
Il a été assommé de médicaments, 12 médicaments par jour. Il dormait 23 heures sur 24. Au début de la maladie, beaucoup, beaucoup de tentatives de suicide. Alors, c'est une maladie qui est vraiment terrible.
Oui, et vous m'aviez dit qu'en plus, il ne supportait pas du tout qu'on lui donne des médicaments, que ça le mettait très en colère.
C'est-à-dire que mon fils... Au départ, vous voyez, les psychiatres, ils l'ont tellement dégoûté des médicaments parce qu'il a pris 34 kilos et il bavait. Et il avait beaucoup d'effets indésirables des médicaments.
Ouais.
Et en fait, ça ne marchait pas du tout puisqu'il ne faisait que dormir et grossir. Et les psychiatres, à chaque fois, bon, on lui a changé, on lui a donné beaucoup de molécules. Et aucun des médicaments marche pour mon fils.
Ouais.
Alors voilà, il faut dire qu'il y a des personnes pour qui ça ne marche pas du tout.
Ouais.
Les autres, ça les assomme. Et je voudrais surtout parler, bon, mon fils, il a fait beaucoup de tentatives de suicide au début. Après, il a été hospitalisé beaucoup de fois aussi. Et à l'hôpital, c'est vraiment l'horreur. Vous aviez parlé de la violence des animaux. Vraiment, c'est terrible. Moi, j'adore les animaux, personnellement. Mais il faut aussi parler de la violence contre les malades en psychiatrie.
Bien sûr. Malheureusement, ça reste un sujet presque tabou, mais dont on commence à parler de plus en plus.
Mais je peux vous dire, si vous êtes une femme intellectuelle, je sais, vous avez sûrement lu les livres « Les médecins de la mort », ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque, de cette époque-là.
C'est terrible.
Je peux vous dire que mon fils a été attaché simplement parce qu'il avait donné la main à une fille et sous contention, les mains, les bras, dans une pièce avec une toute petite fenêtre et presque dans l'obscurité. Des toilettes par terre collées au sol, sciées au sol. Et d'un autre côté, mon fils est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce que, bon, il n'accepte pas les médicaments, parce que ça fait énormément d'effets indésirables. Parce que si vous ne mourrez pas de la maladie, vous mourrez d'une crise cardiaque à cause des neuroleptiques.
Mais c'était en creusant, on bouche un trou pour en creuser un autre, quoi.
Oui. Alors, mon fils, il fait une thérapie avec un... Nous habitons Bordeaux. Avant, on était sur Paris. C'est pas du tout la même chose, déjà. Sur Paris. Bon, Paris, c'est Paris, hein. Bordeaux, c'est une toute petite ville. Alors, les soins, c'est pas du tout ça. Ni de l'amabilité non plus.
Alors, c'est ça. Pardon de vous couper, mais c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que certains justifient ce traitement par le manque de personnel, par le manque de moyens, certes, mais c'est le manque d'humanité, ça n'a aucune excuse. C'est pas une excuse, quoi. Vous voyez.
Je peux vous dire que j'ai depuis 11 ans que je fréquente les hôpitaux psychiatriques à cause de la maladie de mon fils. Parce que nous, ça détruit toute une famille, vous voyez. Ça détruit mes filles. Je suis chez mes filles à la campagne, là, parce que moi, je ne peux plus me lever. Je suis en arrêt maladie. Je ne suis jamais en arrêt maladie. Mais là, j'ai perdu les goûts de tout. Vous voyez, depuis que mon fils est parti de l'hôpital, les 12, parce que je vais vous raconter bon, comment ça s'est passé. Et dans les hôpitaux, les personnes, les soignants, ils se mettent comme dans une espèce d'aquarium à regarder Facebook, parce que je les ai vus. Ils sont sur leur téléphone.
Ouais, c'est ça. À part ça, ils sont débordés, quoi.
Oui, les seules personnes qu'on voit travailler, c'est les ASH, ceux qui font le ménage. Ça, on les voit travailler, par contre. Les psychiatres, ils ne passent pas. Ils passent une fois par semaine. Et c'est comme des recettes de cuisine, vous voyez. Ils vont donner, bon, ils vont dire à un malade, je peux vous parler pour mon fils et pour d'autres jeunes qui sont hospitalisés, dont je suis copine avec les mères. On va donner un petit peu de neuroleptique. Là, un petit peu de ça, c'est comme des recettes de cuisine qu'on donne à chaque personne. Mais en fait, ils ne connaissent pas grand-chose. On connaît que maintenant, c'est la dopamine dans les cerveaux. Il y a une anomalie au niveau de la dopamine.
Oui.
Mais en fait, à part ça, ils ne savent pas grand-chose, à part donner des médicaments et les assommer. C'est terrible, l'hôpital psychiatrique. Vous entendez les hurlements des gens qui sont sous contention. Vous entendez les cris, vous voyez les malades qui déambulent dans les couloirs à baver, avec la tête tordue, et c'est vraiment terrible, là. C'est vraiment...
J'ose même pas imaginer pour une maman comment ça doit être de laisser son fils là.
Ah, moi, c'est terrible.
Ouais.
Alors, je peux vous dire, voilà, mon fils, il a été beaucoup de fois à l'hôpital. Parce qu'il a essayé, quand il ne va pas bien, il est très fragile. Quand sa chienne est morte, elle avait 16 ans. Bon, bien sûr, hôpital, parce que vraiment, c'était un choc. Et il avait depuis tout petit. Après, il y a 2 mois, mon fils, il a été, parce que bon, il se sentait pas bien, mais c'est lui qui a voulu y aller. Et un soir, on m'appelle, et il vit tout seul, mon fils, dans Bordeaux. Et on m'appelle de l'hôpital à minuit, on me dit, voilà, mon fils il s'appelle Mathieu.
Mmh.
Ils m'ont dit, est-ce que Mathieu est chez vous? Il était minuit, moi je dis, mais mon fils il est chez vous à l'hôpital. Ils m'ont dit, mais en fait on ne l'a pas vu à 19h.
Il dit, comment vous ne l'avez pas vu à 19h? Il ne s'était pas aperçu qu'il n'était pas descendu manger.
Mais attendez, on est bien d'accord qu'on parle d'un secteur fermé, là?
Là, c'est des secteurs fermés.
Il n'était pas hospitalisé en secteur libre?
Non, là, c'était secteur
fermé. Donc, ils sont supposés savoir exactement où est chaque patient, à quel moment?
Non, mais ils font rien, ils sont dans leur aquarium à regarder Facebook ou les réseaux sociaux. Donc, et si vous leur demandez la moindre chose, ils sont toujours débordés.
Là, ils vous appellent en se rendant compte qu'il y a un problème?
Oui, après moi, j'étais affolée, je pars avec ma voiture chercher, et puis mon fils, nulle part. Pendant 2 jours, on ne savait pas où il était. Au bout de 2 jours, il est revenu dans le service. De lui-même.
Oui.
Bon, après, il est resté quelques jours encore à somme des médicaments parce que malgré tout, même si mon fils n'accepte pas les traitements, des fois, il essaye quand même parce que la maladie est tellement grave et tellement, il y a tellement de handicaps avec cette maladie et tellement de souffrances pour toute la famille, hein, parce que c'est toute la famille qui tombe malade. Hein.
Bien sûr, évidemment.
Alors,
il a envie de se battre quand même, quoi.
Il a envie de se battre. Parce qu'il fait énormément du sport, il fait une thérapie avec un psychiatre, mais ça fait 4 ans, il parle, il lutte énormément contre cette maladie. Et comme, il dit aussi, c'est assez difficile d'accepter qu'on a cette maladie, puisque les médias, ils en parlent si facilement, les moindres mots, je vois les hommes politiques à chaque fois, oh, schizophrénie.
C'est galvaudé, quoi. C'est comme la paranoïa, oui.
Oui, voilà, il parle facilement que c'est une maladie, de la souffrance. C'est terrible comme maladie. Hein.
Est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents, d'un côté ou de l'autre?
J'ai mon cousin qui a la schizophrénie, mais maintenant il a 57 ans. Mais en fait, c'est héréditaire. Ça, c'est sûr qu'il y a une partie héréditaire dans toutes les maladies.
Oui.
Mais bon, mes autres enfants, Dieu merci, ils n'ont rien. Mais vous voyez, mes enfants, ils ont quand même un petit peu peur d'avoir des enfants, puisque tellement c'est la souffrance depuis 11 ans.
Oui, je comprends, oui, bien sûr.
Et tellement les suivis dans la psychiatrie sont vraiment de très mauvaise qualité. Parce que vraiment, qu'il n'y ait pas de personnel, d'accord, mais le peu de personnel qu'il y a, ils ne foutent rien.
On va pas faire de généralité parce que je suis persuadée qu'il y a des structures dans lesquelles ils travaillent beaucoup, mais
cas,
là, en l'occurrence, ce que vous avez vécu, c'est la réalité, en tout cas pour vous.
C'est la réalité. Alors, depuis il y a à peu près les 8, et mon ex-mari. Ah oui, sans parler de la drogue qui circule, qui est en vente libre dans les hôpitaux, puisque moi, j'étais là quand on a proposé à mon fils du cannabis.
Ah!
Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Hein. Et même à Sainte-Anne, parce que mon fils était à Sainte-Anne aussi.
Mais aujourd'hui, il est où votre fils? Est-ce qu'il va bien? Parce que là, vous me dites qu'il est parti et revenu.
On ne sait pas où il est.
Il est reparti?
Non, mais il n'est pas revenu. En fait, je vais vous expliquer, les 8. Et son père, il est passé chez mon fils. Mon fils, il n'était pas bien. Son père, il a pensé que c'était bien de les faire hospitaliser par un tiers. Ici, à Bordeaux, en fait, il faut appeler la police, il faut appeler les pompiers. Il habite en plein centre-ville, mon fils. Et du coup, la police, les pompiers sont arrivés. Mon fils, il ne voulait pas partir.
C'est encore plus traumatisant.
Oui. Alors du coup, ils l'ont quand même amené. Et bon, là-bas, il est hospitalisé dans un secteur. Régis s'appelle, à l'hôpital Charles-Perrins. Et les 8, il est resté les 8. Les 9, il m'a appelé. Il m'a dit, maman, ils m'ont donné un traitement tellement lourd que j'ai la tête, je ne peux plus bouger la tête. Il avait la tête tordue presque sur l'épaule, vous voyez?
Mmh.
Il m'a dit, je bave, j'ai entendu à sa voix, il ne pouvait plus parler.
Mauvaise réaction, quoi. Oui.
C'est les réactions des neuroleptiques, ouais. Les effets extrapyramidaux des neuroleptiques.
Ouais.
Alors, vous voyez, c'est quand même des médicaments très, très, très forts. Et puis, alors, du coup, il donne la dose. Hein.
Et donc, malgré cet état-là, il a réussi à s'enfuir?
Oui, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de sport, mon fils. Alors, voilà, les 8, il était hospitalisé. Les 9, il m'a appelé. Les 10, je suis allée laisser les affaires. J'ai vu, ça ressemble à une prison. Mais vous voyez, moi, je suis allée les voir à l'hôpital. une fois que j'étais à l'hôpital, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit de les sortir. Les 12 le matin, je suis allée dans le service. L'infirmier qui sort, je suis allée lui laisser les habits propres. L'infirmier qui sort, qui me dit, « Oui, votre fils, on discute, la discussion, elle est assez facile avec lui. » Je lui ai dit, « Vous lui avez donné des médicaments parce que son cou, il ne peut plus les bouger. » Il m'a dit, « On a donné les correcteurs. » C'est-à-dire qu'il donne un autre médicament pour enlever ça.
C'est sans fin.
C'est sans fin des médicaments. Et après, ils ont dit à mon fils, il m'a appelé avec les téléphones d'un des malades, d'une personne hospitalisée, et il m'a dit, « Maman, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Je ne peux pas rester ici, sors-moi d'ici. » Parce qu'il était hospitalisé par un tiers. Il était 9h30, les 12. J'étais devant les services pour laisser les habits. J'ai donné ça à l'infirmier. Bon, j'ai dit à mon fils, « Bon, si tu prends au moins un tout petit traitement, je veux faire le nécessaire. » Mon fils, il a dit non, il a raccroché. À 9h30, je pars de l'hôpital pour aller prendre les trains pour partir travailler. À 9h45, on m'appelle en me disant que mon fils, il s'est sauvé du service.
Ça aussi, l'hôpital, ça paraît fou, c'est ce qu'elle veut dire.
Oui,
comment
il a
comment
sauté le mur.
Il a sauté le mur.
Oui, il a sauté le mur parce que mon fils, il peut courir pendant des kilomètres. En fait, dans cette maladie, pour mon fils, je veux dire, il ne va pas sentir la fatigue.
Il n'y a pas de limite.
Non. En fait, le cerveau, il tourne tout le temps. Mais en fait, le sport, ça fait qu'il va courir. Il ne va pas ressentir la fatigue.
Est-ce que vous avez la moindre idée de là où il a pu aller?
Non, je ne sais pas du tout. Et puis, je vous dis, depuis une semaine, je suis comme, je ne peux plus bouger. Je ne suis pas quelqu'un de dépressive. Le médecin, il m'a prescrit des médicaments. Je n'ai pas pu supporter ça. Je prends un autre médicament. Et mes enfants, ils ne sont pas bien non plus. Son père, il est dans Bordeaux ce soir. Il est en train de les chercher avec les clochards. On ne sait pas où il est. La police de Bordeaux, très, très bien. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait à l'hôpital? L'hôpital, ils n'ont pas déclaré la fuite, les 12.
Et pourquoi?
Et mes filles, parce qu'ils ont menti. Parce qu'une de mes filles est partie au commissariat les 15. Il y a un service des personnes disparues, parce qu'il y a énormément de personnes disparues sur Bordeaux. Et un service très, très bien, vraiment. Et elle est tombée sur un policier très compétent en psychiatrie qui a travaillé pendant des années à Sainte-Anne. Il nous a dit, un malade sur deux, c'est ça, beaucoup, beaucoup de malades.
Ah oui.
Il ne supporte pas. Mais mon fils était en secteur fermé, hein. Il était sous contrainte, ça veut dire que les responsabilités à l'hôpital.
Tout à fait, oui.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fille, elle a été à la commissariat, elle a été reçue par les services des disparitions inquiétantes, les 15. Et puis, à ce moment-là, la police appelle l'hôpital. Et en fait, l'hôpital a menti. L'hôpital, il a dit que mon fils est parti les 12 de son plein gré parce qu'il était en soins de parcours parcours de soins.
Mais ça, c'est ça.
Ce qui est complètement faux.
Je pense qu'on peut facilement prouver que c'est faux.
Oui, parce que la police, il a la preuve.
Bon, voilà, oui. Ouais.
Et alors, du coup, la police, on a appelé aujourd'hui parce que moi, je ne peux même plus manger, je ne peux plus penser, je ne peux plus travailler. Vraiment, je ne suis pas bien du tout, mes enfants non plus. Et puis, vous savez, la police, on nous a dit aujourd'hui qu'en fait, à cause de l'hôpital, on a perdu 3 jours.
Et 3 jours précieux.
On ne sait pas où il est.
Vous ne savez pas du tout.
Mais oui, on ne sait pas où il est, mon fils. Alors, on s'imagine tout, parce que bon, c'est quand même une maladie qui est très grave. Et bon.
Est-ce qu'il a son téléphone avec lui ou il est parti sans, j'imagine?
Non, il est parti sans rien.
Oui, forcément, ils l'ont gardé son téléphone.
Non, il a sauté le mur, il est parti sans rien.
Est-ce qu'il a une page sur les réseaux sociaux, quelque chose, pour essayer de le contacter?
Non, il n'a rien, il a. Moi, les filles, il est passé dans les journaux du Sud-Ouest. Il s'est passé à la radio parce que la police, on l'a mis dans tous les réseaux, vous voyez, pour
de recherche,
la disparition inquiétante. Mais entre-temps, nous, on est presque... Moi, j'ai l'impression que je suis morte, vous voyez ?
Mais je comprends.
Que je ne peux plus rien faire. Et tout ça à cause de la négligence de l'hôpital.
C'est l'hôpital.
Et en plus, ils mentent, ils racontent n'importe quoi, les hôpitaux. En tout cas, l'hôpital psychiatrique Charles Perrin à Bordeaux.
Alors, j'aime pas trop qu'on donne des noms à l'antenne, vous savez, Jade. Ça peut nous
donner
des
problèmes. Bon, ça se passait là.
Pas de généralité et ça n'engage que vous, parce qu'on n'a pas l'autre.
Oui, bien sûr, moi, parce que je vais entamer une procédure en justice. Ce qui intéresse pour l'instant, c'est mon fils.
C'est ce que je voulais vous dire. Comment je peux vous aider?
Mais en fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça? Comment ils ont fait pour les recherches?
D'accord, donc vous souhaiteriez qu'on vous mette en contact avec des gens qui ont vécu la même situation. Est-ce que vous souhaitez qu'on donne à l'antenne un descriptif de votre fils, si jamais quelqu'un le croisait dans le coin de Bordeaux,
qu'il puisse bien sûr, mon fils, il est parti habillé avec une veste beige, Levi's, et avec un jogging, des tennis noirs. Par contre, Léo, je ne sais pas, il a les cheveux courts, il n'est pas très grand, il fait 1m65 et 66 kilos. Et puis voilà, il a les yeux marron clair.
Et il s'appelle Mathieu,
donc. Il est brun. Il s'appelle Mathieu.
Et potentiellement, il est quelque part à Bordeaux dans la région, s'il n'a pas pris un train pour partir ailleurs. Oui, c'est ça, vous ne savez pas où il est.
Il n'avait pas d'argent, il est parti sans rien. Surtout pas rester à l'hôpital.
Est-ce que vous avez contacté les associations qui hébergent justement les sans-abri, qui reçoivent les gens en détresse?
Son père est... Ce soir, est en train de faire tout ça dans Bordeaux.
Donc, si j'ai bien compris, c'est votre ex-mari, mais qui est très impliqué quand même dans tout ça.
Ah oui, on aime nos enfants, ça, bon. Vraiment. Et puis, surtout qu'on se sent coupable de l'avoir laissé là-bas, en fait. Parce qu'on s'était dit, peut-être une dernière chance, peut-être qu'il va accepter un médicament.
Alors, Jade, vous savez, quand on est maman et d'un enfant qui a des soucis, de toute façon, on se sent coupable à vie.
Oui.
Mais arrêtez, enlevez cette culpabilité parce que vous n'y êtes évidemment pour rien.
Oui.
Vous n'avez rien fait contre lui, vous avez fait tout ce que vous avez pu à chaque étape, au mieux.
Oui.
Mais il n'y a pas de solution miracle, donc ne vous blâmez pas, s'il vous plaît, en plus.
Oui, je sais, mais bon, il m'a supplié à le sortir.
Oui, mais vous ne pouvez pas le sortir instantanément, il fallait quand même vérifier qu'il prenne un traitement. Il a refusé, c'est extrêmement compliqué comme situation. C'est pas comme si vous aviez volontairement cherché à lui faire du mal, loin de là.
Oui, je sais, mais bon.
Mais je sais qu'en en tant que maman, de toute façon,
beaucoup de choses.
On est coupable à vie quand on est maman, je sais bien.
Oui. En souris, je pense.
Et puis, évidemment, dans une situation aussi dramatique, je vous imaginez tout et surtout le pire.
Oui.
Mais le pire.
On a peur à chaque coup de téléphone.
Mais le pire n'est jamais sûr, Jade, vraiment. Pour l'instant, vous ne savez pas. Et je pense que votre fils est fort et intelligent.
Oui.
S'il se bat jusqu'à maintenant pour survivre à ça et vivre avec ça, c'est pas pour faire des bêtises. Il avait besoin, je pense, de retrouver un peu d'oxygène, justement, de plus être ivre de médicaments.
Oui, il pouvait plus parler, rien. Mais malgré ça, il a quand même sauté les murs.
Et voilà, donc oui. il a cette force-là, et je pense qu'il a une force mentale qui va avec.
Mais j'espère. Parce que moi, je ne l'ai presque plus.
Ben c'est normal, c'est la situation, c'est un cauchemar pour une maman, dire ça, évidemment.
C'est un cauchemar. Moi, je me réveille depuis 11 ans, schizophrénie, toute la journée, schizophrénie, je me couche, schizophrénie. Alors, quand on parle si légèrement à la télé, ça, et quand c'est tellement horrible, cette maladie. C'est la maladie de la souffrance.
C'est une maladie qui fait souffrir, et comme beaucoup de maladies mentales, qui fait souffrir la personne concernée et tout l'entourage, bien évidemment.
Ah oui,
toute la famille est en souffrance.
Ah oui, toute la famille.
Et comment le vivent vos autres enfants, là, en ce moment? Comment ils tiennent?
Ah mais terrible. Terrible.
Oui.
Sincèrement, j'ai un des enfants qui vit à Berlin. Il devait venir voir Mathieu, et puis bon, là, il n'est pas bien. Les filles, moi je suis chez les filles à la campagne et à côté de Bordeaux, mais c'est pareil, nous sincèrement je ne peux plus bouger du lit, je ne peux plus bouger, J'espère retrouver la force pour aller les chercher parce que je suis en arrêt maladie.
Oui.
Mais je ne suis jamais en arrêt maladie. Hein. Je travaille même beaucoup, beaucoup. Mais là, je suis en arrêt maladie parce que je n'ai plus la force.
C'est trop. Est-ce que vous avez le moindre contact avec un de ses copains? J'imagine que non.
Il y a des copains parce qu'il va au GEM. Mais les copains, ils sont inquiets aussi. Mais personne ne sait rien.
Personne n'aurait de ses nouvelles?
Non. Vous savez, l'hôpital, hier, il m'a appelé, les services des usagers, et ils m'ont dit, voilà, on les recherche. J'ai dit, mais vous ne les recherchez pas, arrêtez de mentir, puisque vous avez même menti à la police, en disant qu'il est parti de son gré. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous faites suivre? Je lui ai dit, vous croyez que je vais aller dans votre hôpital pour que vous m'attachiez par terre?
C'est ça, ils veulent
non,
vous faire
mais je
croire que c'est vous qui êtes folle, du coup, c'est pas eux, bien sûr.
Oui, ils m'ont dit ce que vous faites suivre.
Bon, attention.
Vous faites suivre, quand... c'est terrible d'avoir un enfant malade et ça pas savoir où il est.
Pour l'instant, effectivement, la priorité, vous faire suivre, vous faire aider après, ça, évidemment.
Je... Oui,
mais là,
ça,
pour l'instant, la priorité, c'est pas ça. C'est pas
non,
ça.
Non, je veux avoir la force de pouvoir aller partout le chercher, mais pour l'instant, je ne l'ai pas.
Est-ce que votre fils pourrait avoir peur, si vous le récupérez, que vous le remettiez de force dans cet hôpital?
Je pense qu'il a peur de ça, oui.
Et ça n'est pas votre intention?
Non, moi, je ne veux plus. Non, non, non.
Qu'est-ce que vous envisagez alors pour lui?
Mais en fait, il a 28 ans. Je pense qu'il faudra le laisser décider tout seul.
D'accord.
Parce qu'il se bat quand même. Hein. Il se bat.
C'est ça que j'entends moi depuis tout à l'heure, c'est que c'est un garçon qui a quand même la tête sur les épaules, qui a une force physique, une force mentale, et qui,
oui.
qui a probablement beaucoup de capacités aussi.
Oui. Et qui lit énormément, qui parle plusieurs langues.
Et oui, c'est ce que je vous dis, il est intelligent. En plus, il est très conscient de sa maladie, parce que quelquefois, les schizophrènes n'ont pas conscience de leur maladie, pas à ce point-là en tout cas. Pas avec autant de justesse que semble l'avoir Mathieu.
C'est-à-dire qu'il lit beaucoup un psychiatre aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils n'ont pas la même façon de voir la psychiatrie, certains. Ils disent que bon, les neuroleptiques font plus de mal que du bien.
Et cette histoire de dopamine, ça fait combien de temps qu'on vous a appris ça?
L'histoire des...
Vous m'avez dit que la schizophrénie a un lien avec un problème de dopamine.
Ah oui, ça a été découvert. C'est les neurotransmetteurs du cerveau. Il y a une anomalie. Il y a trop de dopamine à certains endroits et pas assez d'autres. Et ils ont trouvé même les gènes. C'est les gènes 22. Il y a l'anomalie dans les schizophrénies. C'est une maladie du cerveau avant tout.
Oui, ça, je savais que c'était une maladie du cerveau, mais je ne savais pas que la dopamine avait un rôle là-dedans.
Ah oui, parce que les neuroleptiques, ils vont servir à régler la dopamine.
D'accord.
Mais avec les médicaments, ils vont avoir les effets extrapyramidaux, comme les effets de, vous voyez, des Parkinson.
Comme pour le Parkinson.
Oui,
j'y pensais.
Où ils vont marcher en avant, ils vont avoir...
Des mouvements involontaires aussi. Ouais.
Des mouvements involontaires. Ils peuvent avoir la tête, comme ce qu'il a eu mon fils, là, les tordues, et puis des fois, elle ne revient pas, la
tête. Des spasmes musculaires qui restent coincés.
Oui.
Ouais.
Les hommes, ils ont même du lait qui sort de la poitrine, vous voyez. Et complètement la lobotomie chimique, en fait.
Est-ce qu'avec votre...
Plus d'émotion.
Est-ce qu'avec votre ex-mari, vous parlez tous les deux aussi? Vous arrivez à...
De notre enfant, oui, mais il est à fond pour un médicament, mais moi, je pense que notre fils, on peut pas le forcer parce qu'il a trop de caractère...
Et en même temps, c'est ce qui est bon signe dans cette histoire. C'est ça qui me laisse espérer, parce qu'il a du caractère, il a envie de se battre. Il l'a prouvé à maintes fois. Il y a Marie qui envoie un petit message et qui dit « Mathieu fréquente peut-être des associations caritatives qui distribuent des repas gratuitement. » Mais je pense que votre mari a dû aussi penser à ça, votre ex-mari.
Oui, parce qu'en fait, il avait voulu commencer à le faire.
Distribuer des photos de lui un petit peu partout.
Oui, c'est ce qui... Mon ex-mari, il est en train de faire ça ce soir.
Et surtout transmettre le message que vous ne souhaitez absolument pas l'internet d'office, bien au contraire, que vous avez envie maintenant de l'aider, de l'accompagner différemment. Parce que c'est peut-être ça qui lui fait peur.
Je pense que c'est ça qui lui fait peur. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'il ne revient pas. parce qu'il avait, il m'avait dit, maman, j'ai plein de projets, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là.
Alors Jade, s'il vous plaît, c'est pour ça qu'il ne revient pas encore. Rajoutez ce petit mot.
Hein. Oui.
Il ne revient pas encore, il a peut-être besoin juste de temps.
Oui.
Parce qu'effectivement, il
c'est
a...
Beau.
Oui.
C'est quand même dur, c'est ça.
Ben évidemment, c'est...
C'est horrible, chaque seconde qui passe, on ne sait pas.
J'aimerais tellement, Jade, pouvoir vous serrer dans mes bras pour vous réconforter un petit peu.
Non, mais c'est gentil, c'est gentil.
Mais vraiment, de ce que j'entends, c'est un battant, Mathieu. Et
oui.
C'est ça qui me laisse. Un garçon qui a la force de s'échapper comme ça, qui se prend en main parce qu'il ne veut pas que ça continue, c'est qu'il a, il a envie d'autre chose pour sa vie à lui, justement.
Oui, parce qu'il m'a dit des projets.
Et bien voilà, et ça, les projets, c'est ce qui nous tient debout.
Oui.
C'est qu'il a des envies, justement. Et le, oui. Le mot envie en français, je dis ça parce que je pense que vous êtes d'origine germanique, probablement.
Non, moi je suis colombienne.
Ah, colombienne, pardon, quand vous parlez de Berlin tout à l'heure.
Mais, non, parce que mon fils il habite Berlin, mais le père c'est un français.
Mais ce que je vous disais, c'est que en français, le mot envie a deux sens, vous voyez. Quand on a des envies, oui. C'est aussi qu'on reste en vie.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça, oui.
Et c'est extrêmement important.
Oui, j'aimerais bien avoir envie, j'espère que je ne suis pas dépressive, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai essayé un jour le médicament, j'ai failli mourir. Là, quand il est parti, il m'a donné ce médicament-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est horrible ce médicament.
Non, vous n'êtes pas dépressive, mais évidemment, vous êtes à bout, il y a de quoi vous porter à bout de bras.
Ah, je suis à bout, ah oui, je suis à bout, je ne peux pas penser à autre chose que où il est mon fils. Parce que...
Mais n'importe qui serait dans le même état que vous, évidemment. C'est complètement normal.
Oui, parce qu'on a tellement peur. Je pense que mon fils, Mathieu, il n'est plus suicidaire. Mais au départ, il a fait énormément de tentatives de suicide.
Oui, mais il a montré après qu'il avait plein d'envie aussi.
Oui, c'est vrai.
Et oui. Et ça, c'est quand même extrêmement important et extrêmement positif. Et je sais que c'est très difficile ce que je vais vous demander, mais dans des moments, dans les situations les plus atroces comme celle-ci, il faut vraiment apprendre à vivre au présent. Il ne faut absolument pas anticiper un avenir que personne ne connaît. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. Et il faut couper le petit réalisateur qui vous passe des films d'horreur dans la tête. Je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment se concentrer sur chaque minute, chaque jour. Et rester le plus optimiste et le plus positif possible, lui envoyer tout l'amour qui est en vous, lui envoyer plein de pensées pour le rassurer.
Oui, je sais. Hein?
Vraiment.
Oui, on a toute l'église Amérique latine qui est en train de prier pour mon fils.
Ah, vous voyez, ça aussi, c'est de lui envoyer de l'énergie positive, il en a besoin.
Oui, parce que là, vraiment, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Et sincèrement, les hôpitaux, en tout cas dans mon cas, pour mon fils, c'est vraiment... Je suis traumatisée, vraiment, c'est horrible.
Je comprends, l'expérience a été bouleversante pour tout le monde et épouvantable pour tout le monde. Mais une fois de plus, je pense qu'il est, il est fort, votre fils. Il est plus fort que vous ne le pensez. Il l'a prouvé à maintes reprises. Se prendre en charge comme ça physiquement, de faire du sport, d'en parler, de lire des choses, il est intelligent.
Oui.
Il a parfaitement conscience de sa pathologie. Donc tout ça, ce sont des signes encourageants. Il a des envies, il a des projets.
Oui.
Ça m'a pas l'air du tout d'être quelqu'un qui a baissé les bras. C'est juste quelqu'un qui ne pouvait plus supporter une situation et qui n'a pas trouvé d'autre issue que de s'enfuir.
Oui.
Ça veut dire déjà qu'il faut de la force pour ça.
Oui, il a beaucoup
de force. Sinon, je vais être un peu cru. Un peu cash, mais je me permets avec vous comme avec une amie. S'il avait eu envie d'en finir avec la vie, il en aurait fini sur place.
Oui, peut-être, oui, je pense.
Le fait d'avoir cet élan pour s'en aller, c'est que s'en aller dans un but précis.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que beaucoup qui s'en vont, c'est parce qu'ils veulent le faire, parce qu'ils ne peuvent pas le faire à l'hôpital, oui. Mon fils a essayé au début de la maladie de le faire à l'hôpital. Il a essayé.
Alors, quand je vous parlais de vivre au présent, on n'est plus au début de la maladie, là, maintenant.
Oui, c'est vrai.
Vous avez beaucoup appris.
Vous pouvez penser au passé.
Vous avez beaucoup appris. Il a beaucoup grandi. Il a beaucoup appris aussi.
C'est vrai qu'elle m'a dit, moi, je dois faire une thérapie post-traumatique parce que j'ai beaucoup de traumatisme. J'ai tout le temps peur pour lui.
Il y a de quoi.
Mais bon, c'est vrai que s'il revient, je vais retrouver ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez joyeuse, mais quand ça m'arrive, ça nous arrive, ça, toute la famille s'écroule en fait.
Mais ça, la thérapie, c'est pas maintenant, c'est pas au moment où on est en plein traumatisme qu'on la commence. Sauf si vraiment vous étiez au point de faire des bêtises parce que ça n'allait plus, mais je crois pas. Je pense que vous êtes stable et que vous avez la tête sur les épaules.
Oui.
Vous êtes juste submergée d'inquiétude et n'importe quel parent ne le serait à votre place, bien évidemment.
Oui.
Mais je vous dis avec des bémols, parce qu'il y a beaucoup de choses positives quand même dans ce que vous me racontez, chez Mathieu.
Oui, c'est qu'il nous en veut, je pense, beaucoup à son père, à moi, de ne pas l'avoir sorti.
Je pense que oui, il a pu vous en vouloir, mais il peut aussi comprendre que ce n'est pas si simple.
Oui.
Et que vous avez fait au mieux à chaque étape aussi pour trouver le meilleur équilibre dans ce grand déséquilibre.
Oui.
C'est quelque chose, c'est comme s'il fallait chaque jour recommencer à zéro dans une histoire comme ça, finalement. Retrouver chaque jour le meilleur moyen de faire ou de ne pas faire, quelle décision prendre, et c'est presque comme si c'était un jour sans fin. Vous savez ce film où on recommence chaque jour la même chose?
Ah oui, oui, c'est un jour sans fin. Et là, l'attente, c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Sans savoir où il peut être, où il pourrait être, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une maladie qui est horrible.
Vous m'avez dit
que... maladie.
Oui. Ah oui, ça, c'est extrêmement compliqué et extrêmement douloureux pour tout le monde. C'est ce qu'on a dit, hein, tout la personne concernée, l'entourage. Vous m'avez dit que la police se comporte très, très bien et est plutôt aidante là, sur cette histoire.
Ah oui, la police est très bien à Bordeaux. C'est les Parisiens qui sont là sur Bordeaux, qui s'occupent de tout ça, qui est vraiment très bien, qui connaissent beaucoup la maladie mentale.
Ouais.
Même les policiers a dit à ma fille, il a dit il aurait été plus sûr chez lui que le fait de l'avoir amené à l'hôpital. Lui-même, il nous l'a dit.
Oui, oui.
Il était plus en sécurité chez lui.
Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas signé son SMS et qui envoie un message qui dit « J'ai vécu ça avec mon fils, c'est vrai pour la dopamine, j'ai suivi la formation pro-famille qui m'a aidée ». Alors je
moi
ne sais
aussi.
Pas, vous la connaissez cette formation?
Oui, j'ai D'accord. tout fait, moi j'achète tous les livres possibles, j'achète tout, je lis, je lis toutes les conférences.
D'accord.
J'ai vu, oui, c'est ce que je disais, je me lève schizophrénie, je me couche schizophrénie.
Alors elle termine son SMS en disant « Mon fils n'a eu de traitement que pendant 3 mois, plus jamais ce calvaire, et maintenant il vit seul chez lui, il est stabilisé sans médicament, courage à vous », vous dit-elle.
Ah oui.
Et j'allais vous dire...
Pourquoi ça peut être son médicament?
Pour, effectivement, quand il aura retrouvé ses esprits aussi, le temps d'évacuer un peu toutes ces drogues, ça sera peut-être moins compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'ils vous disent de faire concrètement, les policiers? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent?
Ils nous disent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui disparaissent, mais qu'ils reviennent pratiquement tous.
Ah, c'est encourageant, ça.
Mais ça peut être lent, ça peut être
c'est ça.
De moins.
C'est que la notion du temps, pour vous, elle a changé du jour au lendemain, quoi. Chaque seconde devient une heure, quoi.
Ah oui, moi qui faisais tous les mois 70 heures d'heures supplémentaires, là, je n'arrive même plus à me lever pour aller d'une pièce à une autre.
Oui.
J'ai plus la force, j'ai plus envie de rien.
C'est normal, Jeanne, mais gardez espoir, vraiment. Voyez, écoutez ce que vous disent les policiers et concentrez-vous sur le fait...
La police, elle fait beaucoup de choses.
Déjà, c'est formidable.
À Bordeaux.
Concentrez-vous sur le fait que Mathieu est quelqu'un de fort et d'intelligent. Et que s'il est parti, c'est avec un projet en tête. Il a besoin de se retrouver, peut-être que de laisser un peu évacuer tous ces effets secondaires qui sont épouvantables.
Ah oui, c'est horrible.
Et puis on va lui envoyer plein d'énergie pour qu'il se sente mieux, qu'il revienne chez vous, hein, vers vous.
Non, mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.
Vraiment, Jeanne, j'aimerais tellement être près de vous et vous serrer très fort dans mes bras.
Merci beaucoup.
Et vous donner toute l'énergie que j'ai pour vous aider à passer cette épreuve qui vraiment est pour une maman inimaginable. Mais je suis persuadée que ça va bien se passer. Quelque chose me dit que ça va bien se passer.
Je vous remercie.
Et surtout, vous me donnez des nouvelles.
D'accord.
Promis. Et puis si ça ne va pas, si vous avez besoin d'en parler à nouveau, vous me rappelez aussi.
D'accord, mais c'est gentil.
La porte est grande ouverte, Jeanne, vraiment.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Au revoir, Jeanne.
Merci, au revoir.
Il est l'heure de refermer la page de cette libre antenne. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous pour vos témoignages, votre présence. Votre chaleur humaine, ça fait du bien. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour une nouvelle libre antenne et je vous quitte avec la phrase du jour. On connaît vraiment une personne à la façon dont elle nous traite quand elle n'a plus besoin de nous. Et c'est très vrai. Passez une bonne nuit et à demain. Pile 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.